Bon midi. Merci d'être sur les ondes de Boulevard 102.1, votre émission d'actualité du midi. On en jase où on traite des dossiers locaux. On traite également des dossiers en politique, que ce soit provincial ou fédéral, international aussi. Bref, on va faire un grand tour de roue aujourd'hui. Évidemment, on va revenir avec cette élection de Christine Fréchette comme nouvelle première ministre du Québec, nouvelle chef de la CAQ, mais par le fait même, elle devient la première ministre au Québec. C'est la deuxième femme à occuper ce poste, la première depuis Pauline Marois. C'est la 33e dans l'histoire du Québec. On va parler de ceci dans le caucus avec Antonine Iaccarini. On va faire un petit tour local avec Mathias Turcotte aux alentours de 12h40, car il est allé à un point de presse impromptu de Bruno Marchand qui voulait parler justement de l'arrivée de Christine Fréchette. Pas mal certain que M. Marchand a poussé un grand soupir de soulagement parce que Bernard Drainville parlait de mettre sur pause le projet du tramway. Alors c'est clair que ça fait l'affaire du maire de Québec, l'arrivée de Christine Fréchette et non l'arrivée de Bernard Drainville. Et aux alentours de 13h-13h10, on aura Luc Laliberté pour nous parler du conflit en Iran. 418-971-1021 pour interagir avec nous. En passant, merci, vous avez été plusieurs hier durant l'émission spéciale avec Antonine Iaccarini, Mathias Turcotte et moi-même sur l'élection de Christine Fréchette, à interagir par texto un dimanche après-midi qui faisait soleil. Je trouvais ça vraiment cool. Alors merci, vous êtes vraiment des bons auditeurs à Boulevard 102.1. Et également, je vous rappelle, deux façons de nous écouter. Si jamais vous quittez la voiture là, pour retourner au travail ou en télétravail, bien c'est le blvd.fm, c'est notre web radio. Les meilleurs moments de nos émissions s'y retrouvent également. Et aussi, vous pouvez télécharger notre application BLVD 102.1 sur App Store et Google Play Store. Pascal CV, passez une belle fin de semaine.
Oui, bien, c'est sûr qu'on avait plus de soleil qu'aujourd'hui. Au moins, on travaille, là, on n'a pas l'impression de manquer quelque chose. Mais c'est une grosse fin de semaine de politique, je pense, puis de début de printemps pour des gens. Ça a roulé dans les cabanes à sucre. Oh, il y avait quoi de le fun aussi pour ça?
Oh, oui, puis c'était le fun d'or aussi. On voyait les enfants s'amuser. La vie était belle. Justement, je vais me permettre une petite météo. C'est 13 degrés aujourd'hui, mais avec de la pluie. Donc, c'est de la pluie pour toute la journée, entre 10 à 20 mm. 9 degrés généralement nuageux pour demain. 9 degrés pluie intermittente pour mercredi. Et nuageux, 12 degrés jeudi, puis à plus long terme, 16 degrés avec des averses pour vendredi. Donc, ce sera une semaine très grisâtre, mais avec la chaleur, la neige va fondre. Je regarde le banc de neige dans le parking. Oh my God, qu'on a besoin de chaleur et pluie pour passer à travers la neige. Anto, toujours en forme comme hier lorsqu'on a fait l'émission spéciale?
Ben oui, là, écoute, avec les sujets qu'on a, là... Ouais, je peux pas être plus heureuse que ça. Puis c'est vrai qu'il fait gris dehors, mais il faut s'encourager parce qu'effectivement, ça fait fondre la neige. Moi, je commence à avoir du gazon chez nous. Là. J'étais toute excitée.
Gazon brun.
Un petit... Ouais, non, mais j'ai même des petites fleurs. Là. Il y a des petits personnages. Là, des petits
on entend les oiseaux, t'as raison, le matin,
oui,
parfois.
Il y a
maintenant.
De l'espoir, les amis. Il y a de l'espoir. Oh, puis oui. Honnêtement, tu sais, hier, c'est vrai que Jeff et moi, on travaillait, on a fait l'émission spéciale. Puis ça me rappelle quand on arrive au printemps et à l'été, tu sais, le soleil se lève plus tôt. Il se couche plus tard. Moi, c'est la période où je suis moins fatiguée, je suis plus productive.
Oui, en effet.
Puis c'est drôle, parce qu'on prend nos vacances l'été souvent, mais moi, dans la vraie vie, là, c'est plus au mois de novembre et au mois de mars que je suis brûlée.
La vitamine D en ce moment fait une différence. Oui. Je suis sortie de randonnée hier à 18h, faisait encore beau.
Oui, c'est ça. Fait qu'on a de l'énergie, on a du temps, on a de la lumière. Donc, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois.
Clairement. Merci à Marc qui nous écrit. « Hey, j'ai écouté votre émission en rediffusion ce matin. » Je l'avais mis sur le site web, justement, blvd.fm. « Good job, super couverture. » Merci, Marc. Merci d'être à l'écoute. Pascal, avant qu'on passe, justement, à l'analyse de cette nomination de Christine Fréchette, cette élection à titre de chef de la CAQ et première ministre, qu'est-ce qu'on doit suivre dans l'actualité? Évidemment, on va commencer avec Mme Fréchette.
Ben oui, alors c'est la nouvelle première ministre du Québec. Après un vote serré hier entre les membres de la coalition Avenir Québec, elle succède donc à François Legault et va être assermentée mercredi. Elle va former aussi la semaine prochaine son conseil des ministres. Bernard Drainville est bon joueur. Il l'avait dit dans sa campagne qu'il allait se rallier derrière elle. C'est fait. Donc, il avouait que la poussière avait commencé à retomber sur la course, qu'il est encore derrière Christine Fréchette. Elle sera une bonne première ministre, rigoureuse, déterminée selon lui. On va voir, par contre, pour la suite de M. Drainville. Il disait qu'il allait se représenter, à suivre quand même, parce que des fois, ça peut venir chercher quelque chose à l'intérieur, puis on le sentait aussi pour Bernard Drainville. Nouvelle importante aussi, du côté du palais de justice, il y en a un qui mettait le chaos depuis au moins deux semaines de procès où il se représentait seul. C'est un détenu qui est accusé de menaces et d'harcèlement contre des agents correctionnels. Et là, il a dit, gars, moi, j'étais écœuré, je suis au bout, je suis fatigué, j'en peux plus, je plaide coupable. Il était toujours désorganisé, il a été cité pour outrage au tribunal, il a été forcé par le juge d'être accompagné par un avocat ami de la cour parce que c'était justement chaotique quand il se représentait. Et c'est Raphaël Plamondon, donc il a reconnu sa culpabilité aujourd'hui et on aura plus de nouvelles, c'est sûr, au courant de la journée.
Je salue un ancien collaborateur de l'émission du matin, Didier Sanson, le maître métal, c'est lui justement qui a pris en main le dossier de Raphaël Plamondon. Et petit rappel à qui est Raphaël Plamondon, on écoute les menaces qu'il a fait justement un gardien de prison au chef du secteur lorsqu'il a été justement arrêté par les gardiens de prison après avoir causé énormément de dommages, dont bris là, de vite là, dans le poste là, de commandement.
J'ai vu que j'étais dans ton miroir dehors. J'ai vu que j'étais par la tête là-dedans, je te le dis. J'ai jamais dit ça à aucun scrupule. Ouais. T'es off. Je te le dis, t'es off là-dedans. Je dis, watch toi, man.
Ouais, l'enregistrement n'était pas l'idéal, là, mais il dit « T'es off, j'en connais du monde dehors, watch-toi ». Donc, c'est des menaces de mort là, envers le gardien de prison.
Une nouvelle mesure des États-Unis contre l'Iran depuis 10 heures ce matin. C'est un blocus qui serait en place pour paralyser le trafic qui entre dans les ports et les zones côtières iraniennes. Donc, tout ce qui entre et tout ce qui sort. Blocus décrit comme un acte de piraterie par l'Iran. Ça découlerait de l'échec de négociations entre Téhéran et Washington. Puis les gardiens de la Révolution menacent à leur tour que tout bâtiment de guerre, peu importe c'est quoi, qui pourrait s'approcher du détroit d'Ormuz sera considéré comme une menace au cessez-le-feu et donc ferait face à une réplique sévère. Ça continue de se prendre feu, en fait, toute cette chicane-là. Je le dis comme ça, mais honnêtement, le baril de pétrole a continué de remonter. Donald Trump est loin d'avoir eu des négociations pour ouvrir le détroit et les deux sont à feu à cran.
On en parle justement avec Luc Laliberté aux alentours de 13h05, 13h10. Aujourd'hui, dans l'émission On en jase.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à notre page YouTube LVD 102.1 pour aller voir les meilleurs moments Boulevard, notamment Le Caucus avec Antonin Iaccarini, le podcast des grands événements avec Denis Gravel qui débute ce soir. Je vous en parle un petit peu plus tard dans l'émission. Anto, enfin, c'est fait. Christine Fréchette a été élue chef de la CAQ. My God, que ça a été pénible pour l'ancien parti de François Legault.
Honnêtement, puis un peu pénible pour tout le monde, là, dans le sens que c'est rare des courses à la chefferie avec un parti qui est au pouvoir, et c'est pas pour rien. Parce que, généralement, il y a des courses à la chefferie quand il y a un premier ministre ou un chef qui perd une élection, ou quand le parti est dans l'opposition, parce que d'habitude, quand tu es au pouvoir, les gens sont contents, il n'y a pas trop de dissensions à l'interne. Mais avec la situation bien particulière de M. Legault, mais la CAQ est partie en course à la chefferie en étant au pouvoir. Et contrairement à ce qui s'est passé au fédéral l'année passée, a décidé de continuer les affaires de l'État. Donc, l'Assemblée nationale était ouverte, on continuait de faire des annonces, etc., etc. Alors qu'on avait des candidats qui disaient une chose et son contraire dans l'espace public.
Immigration, troisième lien, tramway.
Toutes sortes de beaux petits dossiers comme ça qui ont retroussé. Avec le recul, je pense sincèrement que ça aurait été mieux de faire une course peut-être un peu plus expéditive, mais de proroger, donc de fermer l'Assemblée nationale et de dire à tous les ministres, écoutez, c'est pas le temps de faire des grosses annonces. Je pense notamment à cette annonce d'un monopole d'État en informatique.
Ouais.
Je pense que dans une course à la chefferie, ça n'a pas vraiment lieu d'être. Mais il paraît que c'était pas tout à fait attaché, cette affaire-là, puis que M. Bélanger a décidé de prendre une initiative. Non, ça avait l'air bien organisé.
Ça n'a pas paru que c'était pas du tout attaché.
Exactement. Non. Parmi les écorchés, sinon, ben Jean-François Roberge, tu l'as dit, le ministre de l'Immigration, vraiment, sur le dossier du PEC, il ressort de là assez, assez magané. Le fait d'avoir un premier ministre aussi qui était là, mais essayait de pas trop... Mais d'ailleurs, je vais le féliciter, de mettre une étoile dans son cahier. Il ne s'est pas mêlé de la course.
En effet, il a
juste,
bien fait ça.
Sur quelques petits détails là, où M. Legault s'est impliqué, il a répondu aux questions en chambre. Il a réussi à naviguer quand même à travers ça sans se mettre le pied là, vraiment profondément dans la bouche. Beau travail. C'est pas facile quand tu as été habitué d'être au centre de tout. Et c'est un parti politique qui est très articulé autour de sa personne. La pandémie aussi a marqué ce gouvernement-là et sa manière de fonctionner. Donc, pour M. Legault, de s'effacer, c'est pas évident,
en effet. La seule place où il a gardé son rôle de premier ministre, c'est avec les négociations avec les médecins spécialistes. Voilà. Finalement, ça s'est pas réglé. On verra comment Christine Fréchette va reprendre le tout. Maintenant, est-ce que Christine Fréchette va travailler avec Bernard Drainville? C'est la grande question, parce qu'une victoire à 58%, c'est moins que ce qu'on s'imaginait pour Christine Fréchette. Il y a quand même 42% des caquistes aujourd'hui qui sont déçus parce qu'ils voulaient voir Bernard Drainville. Ce matin, Christine Fréchette a fait son premier bain de foule. Est allée dans une boulangerie à Trois-Rivières.
Ah, c'est le fun en région.
Ah oui, ben, dans sa ville natale.
Ben oui, dans sa
ville
natale.
Puis la serrer des mains. Bon, des personnes âgées qui étaient là, puis ben, étaient heureuses.
Quand même, c'est la première ministre. C'est historique. Il y a pas mal de gens qui ont une bonne opinion d'elle. On l'a vu dans les sondages. Vraiment. Les gens la connaissent pas beaucoup. Donc, elle veut vouloir se faire connaître, probablement.
Et voici ce qu'elle avait à dire sur Bernard Drainville.
Elle voit le mesure de travailler avec M. Drainville?
Oui. Alors, j'ai échangé avec M. Drainville et puis on va se rencontrer aujourd'hui. On va travailler ensemble. Mais un peu à l'image de ce que je lui ai dit hier là, pendant le débat, à savoir qu'il a beaucoup à apporter à la Coalition Avenir Québec, beaucoup à apporter au Québec et on va travailler ensemble.
Anto, on va travailler ensemble!
Avec le grand sourire. Elle disait ça aussi à la fin de la course. Elle disait, on a besoin de Bernard,
oui,
hein, c'est un travaillant. Là. Puis là, elle avait un grand sourire.
C'est ça, mais là, on comprend pas trop. À quoi Bernard va servir? T'sais, Bernard, c'est un travailleur. On va travailler ensemble.
Travailler à quoi?
C'est ça, exactement.
C'est une bonne question, Jeff. J'avoue que c'est intéressant de travailler à quelque chose, hein, de ne pas juste être travaillant
c'est
chez soi.
Ça.
Moi, je trouve que M. Drainville... Puis là, ils vont se parler aujourd'hui, là, parce que M. Drainville a fait un petit tweet tantôt. Il dit « La poussière a commencé à retomber. Je veux d'abord remercier François Legault, blablabla. Je veux saluer la victoire de Christine Fréchette et l'assurer de mon appui. Elle sera une première ministre rigoureuse, déterminée, qui saura faire avancer le Québec. Christine et moi avons échangé au cours des dernières heures et nous avons convenu de nous reparler aujourd'hui. Donc, on s'attend à voir peut-être un état de situation, une petite idée. Bon, évidemment, Mme Fréchette, elle ne va pas faire son conseil des ministres aujourd'hui. Fait qu'elle ne va pas annoncer le rôle de M. Drainville.
Rencontre du caucus mercredi, que j'ai compris, pour un conseil des ministres, normalement, début de la semaine prochaine?
On peut s'attendre à ça, mais il faut savoir construire un conseil des ministres. C'est déjà très compliqué en temps normal. Je ne sais pas s'il y a du temps normal en politique, mais là, c'est particulièrement pas un temps normal, OK?
Ben, mettons, temps normal, tu viens de gagner les élections.
Oui, tout le monde
t'aime. Tout le monde est heureux. Oui. Puis là, il faut juste que tu choisisses ton équipe.
C'est ça. Ça, c'est l'idéal. Puis les gens ne sont pas encore ministres, fait qu'ils ont des attentes, mais t'as personne à sortir du conseil des ministres.
C'est genre la CAQ 2018.
Oui, ça, c'était le plus facile à faire, on s'entend. Donc, ça va être quand même un bon casse-tête. Premièrement, ben, il y a des enjeux de parité de genre, mais aussi de région. On essaie de bien représenter tout le monde. On a un peu de pression aussi pour réduire la taille du conseil des ministres, parce que c'était un gros conseil des ministres. Puis là, en fin de mandat, d'habitude, tu veux envoyer un message d'efficacité gouvernementale, ben il faut que tu sois logique aussi dans tes actions. Tu as des gens récompensés, des gens qui t'ont appuyé. Et dans le cas de Mme Fréchette, il y en a une tralée de gens qui l'ont appuyé.
Tu as un caillou dans le soulier qui est Simon-Jolin Barrette, parce que ce que Mathias nous a rapporté ce matin, c'est qu'il a sacré le camp assez vite avec Bernard Drainville. Donc, il n'était pas content.
Ben, il n'était pas de bonne humeur, mais en même temps, puis c'est drôle, hein, parce que pour M. Simon-Jolin Barrette, le score un peu plus serré qu'anticipé à 58%, moi, je pense qu'il y a une partie qui lui est attribuable, son appui et le momentum qu'on a voulu créer.
Tu nous disais hier, il y a un 10% qui est sûrement attribuable à Simon-Jolin Barrette,
facile.
Je te crois.
Moi, en tout cas, c'est mon hypothèse, j'ai aucun moyen de le vérifier, à moins que j'appelle chaque membre individuellement pour leur demander leur réflexion, là, ça n'arrivera pas. Mais moi, je pense que ça a eu un impact qui est énorme. Et puis, on en avait jasé là, la semaine passée. Je pense que M. Jolin Barrette s'est détaché de que ce soit un succès ou un échec, le choix de Christine Fréchette comme chef. Ben, si elle fait pas bien, lui, c'est pas lui qui l'a choisi. Si elle fait bien, tant mieux, il en profite, il va réussir à se faire réélire dans son comté. Puis il se positionne pour la suite des choses. En plus de devoir récompenser, mais de pas trop choquer l'autre équipe, ben c'est ça. Il faut trouver un rôle à Bernard Drainville. Il faut trouver un rôle à Simon-Jolin Barrette. Il faut que tu essaies d'éviter d'avoir des démissions. Tu veux pas avoir d'autres démissions. Il y en a déjà pas mal. C'est parti du caucus. Ouf! On leur souhaite bonne chance. Donc,
santé sera pas évident. C'est Sonia Bélanger qui avait repris ça. Elle a déjà fait une annonce avec les CLSC. Tu es parlant d'annonce pendant la course à la chefferie. Puis là, bon, on s'attend à ce que ça soit sûrement Lionel Carman qui vienne terminer justement ce mandat-là à la santé. Fait que l'idée des CLSC, ça va-tu fonctionner? Ça fonctionnera-tu pas? On le sait pas, là.
Excuse-moi.
Non, vas-y, mais je vais juste dire sur les soins de première ligne, on sentait que ça avait été lancé un peu comme ça à quelques mois des élections. Je pense pas qu'elle allait déployer grand-chose d'ici la campagne.
Est-ce que c'est dangereux de faire un changement actuellement où, puisque la CAQ est pas mal en reconstruction puis il rend élection, ça fait pas vraiment de différence?
Tout est dangereux, là. Que tu gardes les mêmes personnes, c'est dangereux. Changer, c'est dangereux. Tout est dangereux. Honnêtement, c'est vraiment un vrai casse-tête parce que il faut que tu montres une image de changement. T'essaies d'incarner le changement. Les élections, là, après des cycles politiques, ça joue sur le changement. C'est dur d'incarner le changement pour la CAQ. Christine Fréchette, un peu plus facile pour elle d'incarner le changement que Bernard Drainville. Les chiffres étaient à l'appui et l'illustraient parfaitement. Mais c'est vraiment des décisions difficiles. Et quel rôle sera donné à Bernard Drainville? T'sais, il ne faut pas qu'elle ait l'air mesquine. Tu ne peux pas lui donner les infrastructures. Ça ne marchera pas. Il faut que tu lui donnes un rôle important.
Tu le gardes-tu à l'environnement?
Moi, je pense pas qu'il serait content de se faire renvoyer à l'environnement. Par contre, moi, je trouve que ce serait au Conseil du Trésor qui serait le plus judicieux parce qu'il a parlé de couper dans la bureaucratie.
Ah, j'aime
vu que rien n'est simple, France-Hélène Duranceau fait un très bon travail en ce moment. Elle a appuyé. Donc, pourquoi tu la tasserais de là? Il y a le travail aussi parce que Bernard aime bien ça se pogner avec les syndicats. Pourrait être intéressant de l'envoyer se pogner temps plein avec les syndicats, mais pourquoi tasser Jean Boulay de là?
C'est ça. Puis Jean Boulay a appuyé Christine Fréchette.
Puis il a gardé le fort en économie.
Exactement.
Il y a une rumeur aussi dont j'aimerais vous parler. J'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être un ministre non élu.
Ouais!
Capoté, hein? Pendant la course, il y avait le nom d'Olivier Primeau qui circulait beaucoup. Mais je serais surprise qu'on veuille faire autant de diversion. Ce serait une distraction épouvantable, Olivier Primeau. Là, Christine Fréchette n'aurait plus aucune attention.
Non,
j'ai entendu que, disons, quelqu'un du milieu des affaires économie bancaire pourrait peut-être...
Pour venir prendre
l'économie.
L'économie. C'est pas fou, en même temps, mais elle se positionne comme étant quelqu'un qui est capable de recruter des gens qui proviennent du milieu privé.
On verra si ça se concrétise. Des rumeurs, il y en a plein.
Mais ta rumeur sur les primos, moi, je confirmerais le fait que c'est impossible parce qu'il y a d'autres... il y a d'autres trucs là, qui sont sur sa table en ce moment pour connaître un peu et avoir un ami. Là. Fait qu'on peut déjà oublier. On peut déjà oublier Olivier Primeau.
Mais je pense que Olivier Primeau a été très, très tenté par la chefferie de la CAQ. Hein. C'était extrêmement sérieux. Puis il s'est fait dire, s'il te plaît, ne fais pas ça.
Oui, il l'a dit dans Marceau le soir, justement, ici sur les ondes
de
Boulevard.
Donc, très intéressé par la chose politique. Voilà. Et je précise aussi qu'un petit fait intéressant quand même, la personne qui va occuper le rôle de directeur de cabinet, ce sera une femme.
Ah.
Donc, on a un duo première ministre et directrice de cabinet femme, comme Mme Marois avait une directrice de cabinet aussi, Mme Stafford. Donc, on a un nouveau duo de femmes.
Très bien si ça peut attirer justement des femmes en politique. Vous êtes à l'écoute du caucus avec Antonine Iacarini, segment dans l'émission On en jase du lundi au jeudi. De midi à 12h30. Anto, avant qu'on passe aux élections partielles dans Terrebonne et dans le reste du Canada, qui va donner la majorité à Mark Carney, je veux qu'on règle deux dossiers hyper importants pour Christine Fréchette.
Okay,
d'accord?
Okay.
Le premier, c'est Pascal Derry qui nous l'a mentionné. Je te laisse l'entendre.
Elle est chaleureuse. Party de Noël, là, je vous donne un exemple. Le party de Noël, Mme Fréchette, c'est la première sur le plancher de danse. Là. Tout le monde peut rigoler puis dire « Ah bon? » Tout le monde peut être un peu étonné, mais c'est ça.
Moi, je pense que Christine Fréchette doit faire comme Donald Trump. Elle doit se mettre à danser devant les médias. Comme ça, les gens vont dire « Ah, elle est chaleureuse! »
Oui, comme Dominique Anglade avait fait ça en 2022 aussi, publié une photo d'elle qui dansait.
Ça n'a pas fait non plus. Sonia Lebel a essayé, ça ne fait pas tant.
Ben, Sonia Lebel, avec ses vidéos de chasse et tout ça, moi, je trouve que ça le fait quand même. Elle est assez funky sur TikTok. Mais maintenant, pour Christine Fréchette, j'invite quand même les gens à aller écouter, je vais faire de la publicité pour un autre média, mais c'est le style d'entrevue.
Non, oui,
son entrevue à Infoman qu'elle a fait, qu'elle a été diffusée la semaine passée. Puis vous voyez que, tu sais, l'espèce de du stéréotype, l'étiquette qu'on essaie de lui coller, que c'est une fille plate, puis froide, puis... Tu sais, je veux dire, il y a une caricature là-dedans aussi. Là. Elle n'est pas si plate que ça. Là.
Exactement. Deuxième dossier très important, c'est celui-là.
Un jour nouveau se lève. Un autre pareil, mais tu sais, l'oublie. Tout l'or des hommes ne vaut plus rien.
Oh my God.
Si tu es loin de moi, tout l'amour se mord.
Tout l'amour.
Comment rendre un hommage malaisant
Patrice Roy.
À un grand homme politique?
Patrice Roy était le meilleur dans la vidéo.
Oui, la face de Patrice Roy va marquer nos esprits pour toujours. Ça, là, les amis, là, c'est le genre d'affaires que tu fais dans un party.
C'est ça. C'est
privé.
Exactement, tu sais. Party de Noël de la CAQ.
Ben
hey,
oui.
Monsieur Legault, regardez, on vous a préparé quelque chose de drôle. Tout le monde rit. Ah, 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 as-tu vu la combe chanter mal? Puis
en passant, okay. Je précise, c'est quasiment un erratum. Parce que hier, l'extrait qu'on avait, c'était Mathieu Lacombe qui le faisait. Puis on a dit, c'était clairement lui qui chantait le mieux de la bunch. Là.
Oui, ouais, moi, je suis d'accord.
Donc, je m'excuse.
Ils l'ont fini sur Mathieu Lacombe.
Oui, pour cette raison, pour rien, parce que c'est le meilleur.
Pour qu'on se rappelle juste de ça. On était à ça de faire un lip dub, hein?
Oh, que c'était pas loin.
Mais tout ça pour dire que faut que Christine Fréchette mette fin à ça, là.
Oui.
Faut qu'elle dise, ça sort plus ça, là.
Mais ça, c'est
fini,
trop
là.
Tard.
C'est trop tard, mais tu sais, faut pas qu'il y ait d'autres vidéos
Imagine...
Ou elle paye des cours de chant à sa gang, mais je trouve que ça serait un peu contre-productif.
Non, non, c'est pas une priorité. Mais imagine, je sais pas, moi, le PQ fait une publicité électorale avec ça. Mais, okay,
j'adorerais.
Ça serait bon. Honnêtement, ça me fait vraiment penser aux tunes de campagne.
Ouais, c'est jingle.
Des jingles. C'est quand t'es dans la salle puis que tu tapes des mains puis tout ça, là, ça passe. Mais tu sais, c'est télévisé, là, ces affaires-là. Là. Puis nous, on écoute ça là, dans notre salon avec nos pantoufles puis on fait comme « Hey! La, 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 la. » Donc,
il y a des auditeurs qui nous parlent de cruauté animale. Je comprends pas, attendez.
Un jour nouveau se lève. Adieu, autre pareil, mais
ça, c'est bon. Attendez, mais arrive.
C'est-tu là où l'esprit collaboratif de communauté en politique doit s'achever? Es-tu là, la limite, à dire « oui, je fais partie du parti, je participe
» Oui, parce que, honnêtement, mettons, quelqu'un me l'aurait demandé. Là, moi, je suis députée, puis on me dit « on va faire une vidéo, on va chanter, ça va être sur grand écran, puis ça va être public. »
T'aurais dit non.
Hey, moi, je veux bien, là.
Mais ben, c'est parce qu'en plein congrès, ben non, c'est ça, en
moi, c'est comme, mettons, congrès. Quelqu'un me demandait d'aller faire le gang show, là. Wow!
Tu dis ça de même, hein?
Je dis ça de même.
Y a-t-il quelqu'un qui va faire le gang show le 24 avril?
Je sais pas.
Je sais pas. Ouais, l'animateur dont on en jase le midi, le lundi au vendredi de midi à 14h. Vous l'entendez dans une publicité sur les ondes de Boulevard 101. Mon texte est prêt. Je l'ai pratiqué en fin de semaine pour mettre les bonnes intonations.
Mais là, elle vient de te lancer un parachute. Là. Elle vient de te dire ça peut ressembler à
non, non,
ce que...
Non, non, non. Moi, je tiens à dire que Jeff va être très drôle, mais mettons qu'on envoyait des politiciens faire ça.
Ouais, non.
Non.
Moi, mon but, c'est de réussir à dépasser le candidat dans Saguenay de la CAQ qui l'a déjà fait le gang show.
Puis lui, il était quand même drôle. Mais je sais que tu vas être encore plus drôle.
Comme François Tremblay.
T'es courageux, puis on te le donne. Félicitations.
On y va. Francis, et voilà, Francis, on y va, c'est certain. Bon, partiel au niveau du gouvernement fédéral aujourd'hui. 3 partiels, 2 en Ontario, c'est dans la poche pour les libéraux. Donc, PAC, on est majoritaire avec 1 député de plus. Mais ce qui va être à surveiller, c'est Terrebonne, parce que ça s'est terminé par un vote. Ça a été repris par la Cour suprême pour dire « Vous reprenez les élections, les 2 mêmes candidats, le Bloc contre le Parti libéral. » Le Parti libéral a fait une grande fête dans Montréal en fin de semaine.
Oui.
Puis ils en ont profité pour aller cogner aux portes.
Hein,
avec Mark, avec Joël Lightbound, avec toute la belle confrérie libérale. Ça peut faire une différence, Anto.
Oui, honnêtement, oui. T'sais, mettons qu'on prend la colonne des plus et des moins pour les libéraux et le Bloc. Du côté des libéraux, ils ont mis la gomme. Mike Carney, il est populaire.
Oui.
T'sais, François-Philippe Champagne aussi, qui fait du porte-à-porte. Mm-hmm. Ils sont allés vraiment prêter main forte, beaucoup à leur candidate Tatiana Auguste, qui avait été élue par un vote, on se souvient, l'année dernière. Et la Cour qui a décrété qu'il fallait reprendre l'élection, puisqu'il y avait notamment un vote qui s'était perdu dans la poste. Ils ont été très rapides aussi, après la décision de la Cour, à commencer à faire campagne. Donc, Tatiana Auguste s'est tout de suite mise à l'œuvre, alors que du côté du Bloc, la candidate Nathalie Sinclair a attendu avant de dire si oui ou non elle y allait.
Oui, elle a été hésitante.
Puis j'ai trouvé que c'était, ça n'envoyait pas un super bon message. L'autre avait l'air d'avoir le couteau entre les dents, d'être prête, de vouloir vraiment garder son comté, alors que le Bloc s'était battu jusqu'en Cour suprême. Puis finalement, elle avait l'air de... Ben, je ne suis pas sûre, ça me tente finalement de me représenter dans Terrebonne. Bon, là, finalement, elle a fait une belle campagne, elle est très motivée. Donc, voilà pour Nathalie Sinclair. Maintenant, du côté des autres, j'ai envie de dire, point négatif pour le Parti libéral du Canada, c'est que, oui, on est allé chercher une majorité à coup de transfuge. Ça passait au départ, puis ouais, je pense que les gens faisaient « ouais, OK. » Et là, finalement, qu'est-ce qu'on a? On a Marilyn Gladue, la semaine passée, qui traverse la Chambre pour aller se joindre aux libéraux.
Puis là, on s'entend pas du tout de libéral. Là.
Et c'est pas ce qu'on appelle, tu sais, dans le jargon fédéral, on parle de « blue liberals » ou de « red Tories ». Ça, c'est des gens qui pourraient être un peu dans les deux parties, là, qui sont des conservateurs très progressistes ou qui sont des libéraux plus conservateurs au niveau économique. Marilyn Gladue, c'est une hardliner, là, c'est une vraie conservatrice, et notamment sur des questions comme les transitions de genre, sur l'avortement. Ça, c'est plus difficile à faire passer au Québec. Donc, est-ce que les gens dans Terrebonne vont se dire « Hey, Marky Mark, c'est correct, là, tu voulais aller chercher ta majorité, mais c'est quoi, dans le fond, maintenant, le Parti libéral? T'accueilles des conservateurs, on ne sait plus c'est quoi tes valeurs. Et en plus, il y a un enjeu démocratique. Les Canadiens t'ont donné un mandat minoritaire. Et là, à coup de transfuge, tu vas te chercher ton gouvernement majoritaire. Est-ce qu'on respecte vraiment le souhait des électeurs? Donc, il pourrait y avoir un désir chez les électeurs de Terrebonne de punir, entre guillemets, surtout qu'il est de toute façon, il est allé chercher
sa majorité.
Fait que, tu sais, de dire, bon, ben, on va mettre un député de l'opposition, au moins pour avoir un député de plus du Bloc québécois qui défend nos intérêts. Mais du côté du Bloc, je dois dire que le message, je le trouve pas toujours très clair en ce moment.
Non, en effet, puis je pense que ça ne les aide pas. Mais comme tu as dit, ça arrive des fois des votes contre le pouvoir de la façon que ça a été fait. C'est pour ça que c'est intéressant à suivre. De toute façon, un vote de différence
moi,
la dernière fois.
Je suis pas prête à gager de l'argent avec toi aujourd'hui sur qui va l'emporter. Ça va être très enlevant à suivre ce soir.
Moi non plus, mais chose intéressante, c'est qu'on en reparle demain dans le caucus,
et
c'est
voilà.
Certain. Tu restes avec nous pour la prochaine entrevue?
Oui.
Oui, je sais que tu as un délai serré, tu vas voir
ça. Ça marche, OK.
Yes! On en jase. Émission On en jase, midi 27 minutes. On va aller rejoindre quelqu'un qui a rencontré Christine Fréchette ce matin dans sa tournée à Trois-Rivières. Elle est justement établie là-bas. Son nom est Steven Bilodeau. C'est un jeune citoyen qui milite énormément pour la santé mentale chez les jeunes. On en parle beaucoup avec le temps écran, avec la pandémie, le manque d'activité physique chez nos jeunes, le manque de modèles positifs. Il est au bout du fil. Steven, comment vas-tu?
Très bien, merci beaucoup de me recevoir.
Ça fait énormément plaisir, Steven. Steven, dis-moi donc, t'as lancé... via l'Assemblée nationale, une pétition réclamant la mise en place d'une commission spéciale concernant la santé mentale des jeunes. Et là, tu es allé remettre en main propre ton mémoire à Christine Fréchette, la nouvelle première ministre aujourd'hui.
Exactement. Donc, j'ai eu le plaisir de la rencontrer. Je lui ai remis une copie là, de notre mémoire qui contient 15 recommandations là, donc du conseil qu'on a créé, qui comprend des parents, des experts, des gens issus là, des organismes communautaires et moi qui représente les jeunes avec nos 15 recommandations là, sur la santé mentale des jeunes. Donc, j'ai eu le plaisir de lui remettre une copie et je l'ai également invité à s'asseoir avec nous pour premièrement voir si elle est intéressée à mettre en place une commission sur la santé mentale des jeunes, mais aussi échanger là, sur sa plateforme, sur les enjeux là, de la santé mentale, puis aller accepter là, de nous rencontrer. Donc, j'espère que ce sera quelque chose qui pourra se faire là, sous peu.
C'est vraiment super positif. Steven, si je te demandais les trois principales recommandations que vous avez, justement, dans votre mémoire.
Oui, bien, je dirais que une des recommandations qui est très importante pour nous, c'est de, premièrement, donner des outils aux enseignants pour être capables de bien agir et réagir en matière de santé mentale. Donc, on veut leur donner une formation plus adéquate, plus actualisée aussi, et vraiment spécifique à la santé mentale des jeunes, donc pour distinguer les différents troubles de santé mentale. Et ça va réduire, on croit, la pression sur les autres acteurs là, du milieu éducatif. Donc, on peut penser aux intervenants scolaires, aux travailleurs sociaux, aux techniciens d'éducation spécialisée. Donc, je dirais que ça, c'est une des premières recommandations. recommandation qui est importante pour nous. La deuxième, bien, c'est dans un même ordre d'idée, mais d'outiller les jeunes de façon générale, donc en offrant une formation dès le deuxième cycle du secondaire en pair aidance. Donc, la pair aidance, c'est pour donner des outils aux gens pour, premièrement, déceler les signes pour sa propre santé mentale, que ça va pas bien, mais aussi savoir comment réagir si un ami, par exemple, un proche nous dévoile qu'il vit des enjeux difficiles, parce qu'on veut pas que les jeunes prennent le poids non plus de cette difficulté-là que les autres vivent sur leurs épaules. Et la dernière, c'est de revoir la législation qui entoure la confidentialité. Donc, à partir de 14 ans, un jeune bénéficie d'une confidentialité accrue là, quant aux informations de santé physique et mentale. Et nous, on considère que c'est important que le jeune, oui, puisse prendre ses décisions. On remet pas ça en question. Par contre, on constate que le parent devrait au minimum avoir certaines informations quand c'est un milieu bienveillant pour lui permettre de remplir son rôle. Parce que c'est lui qui, devant la loi, la protection de la jeunesse et l'école, en est le responsable.
Ça a été quand même rapide, cette rencontre-là, dans le sens où hier élu, aujourd'hui rencontré. Quelle a été la réception? Et pensez-vous que c'était un petit peu plus pour mettre la table versus passer en action avec vous?
Ben oui, c'est certain que c'était pour mettre la table, développer un canal, un premier canal de communication, mais c'était quand même assez positif. J'ai rencontré également Charles Milliard dernièrement. Demain, je devrais rencontrer un autre chef de parti aussi. Donc, les rencontres vont quand même assez bien. À date, la réception de la classe politique est bien. Mais comme vous le dites, là, c'est le temps, par contre, de se mettre en action aussi. Et, ça doit se transmettre par des actions concrètes. Nous, ce qu'on souhaiterait idéalement, c'est que tous les chefs de parti s'engagent, s'ils sont élus, à mettre en place cette commission-là transpartisane sur la santé mentale des jeunes.
On dirait que ça rejoint deux sujets pour lesquels les politiciens disent toujours des belles paroles, mais c'est difficile hein, d'avoir des vrais gestes. Là, je parle de la santé mentale, bien sûr, qui est toujours l'enfant pauvre de la santé. On en parle beaucoup, mais les moyens ne sont pas toujours au rendez-vous. Et de l'autre côté, les jeunes qui ont plus de difficultés à se faire entendre. Puis on dirait que les partis politiques aussi sont moins peut-être à l'écoute ou c'est moins un électorat qui est la cible. Mais là, il y a quand même un timing puisque l'élection s'en vient et il n'y a pas grand-chose qui va se faire concrètement probablement dans les prochaines semaines. Est-ce que le but aussi, c'est de placer cet enjeu-là dans la prochaine campagne électorale puis d'avoir des vrais engagements des partis politiques?
Totalement. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Puis d'ailleurs, on est conscient que la pétition ne sera même pas déposée avant la fin de cette législature-là. Toutefois, ce qu'on souhaite, premièrement, c'est d'avoir un nouveau gouvernement en place qui va répondre à nos demandes. On n'avait pas envie nécessairement, et là, c'est une nouvelle administration avec Mme Fréchette, mais au moment où est-ce qu'on a lancé ces démarches-là, c'est encore avec le premier ministre Legault. Nous, ce qu'on souhaitait avoir, en fait, essentiellement, c'est une réponse autre que voici ce qu'on a fait dans les 7 dernières années. Donc ça, c'était la première étape. On voulait avoir une nouvelle administration qui, ou du moins un nouveau gouvernement, peut-être la CAQ renouvelée, mais qui va pouvoir être plus ouvert à entendre et aussi que ça s'inscrive là, dans la campagne électorale. Notre objectif, c'est que ça soit un enjeu de l'urne, que les citoyens soient amenés à comprendre c'est quoi les différentes positions des partis politiques et de voter également en conséquence de la santé mentale. Et donc, on sait que c'est des préoccupations qui sont importantes pour les parents, pour les jeunes aussi, pour nos organismes qui actuellement demandent plus de moyens. Donc, ça s'inscrivait totalement dans cet enjeu électoral-là et dans la campagne à venir.
Steven, tu as parlé de Charles Milliard, tu as parlé avec Christine Fréchette, tu as nommé un autre chef, mais je pense que tu attends encore une réponse de Paul Saint-Pierre Plamondon.
Exactement. J'attends toujours là un retour de l'équipe de M. Saint-Pierre Plamondon, également de Mme Gazal. Donc, prochainement, là, demain, si tout va bien, on devrait rencontrer le monsieur Duhaime. Et on a envoyé vraiment l'invitation à tous les chefs de parti. On veut vraiment quelque chose de transpartisan parce que pour la santé mentale de nos jeunes particulièrement, mais aussi ces enjeux qui sont sociaux-là importants, je pense qu'on devrait vraiment mettre la partisanerie de côté et s'allier tout le monde ensemble pour un enjeu qui est aussi important puis qui peut vraiment changer la vie de nos jeunes et de leur famille.
J'ai l'impression qu'avec ces affirmations-là, soit tous ceux qui ont répondu à l'appel, les autres vont répondre prochainement. C'est une course importante. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez être capable de jouer avec des acteurs majeurs pour la suite des choses?
Ben oui, on a déjà plusieurs personnes. La docteure Mélissa Généreux nous a appuyés. Il y a des personnalités publiques qui ont partagé sur leurs médias sociaux. Chantal Lacroix, membre de notre conseil. Madame Marois aussi a assisté à plusieurs de nos rencontres pour nous donner des conseils. Marie-Claude Barrette, Lambert Drainville, Fernelle Morissette ont partagé sur leurs médias sociaux. C'est certain que...
Et c'est des chroniqueurs chez nous, ça, Steven. Fernelle Morissette, ouais. Lambert Drainville, des chroniqueurs chez nous.
Bon, ben, vous voyez, tout est dans tout. C'était dans les astres qu'on se rencontre aujourd'hui. Mais c'est certain que c'est pas facile d'avoir des signatures de la population. On le sait, là, les gens sont vraiment sollicités de toutes les bords, tous les côtés, mais ça prend une minute, moins d'une minute. Ça peut vraiment faire la différence, puis ça nous aide à avoir plus de légitimité après pour avoir d'autres rencontres dans les prochains jours, rencontres l'Union étudiante du Québec. On veut vraiment mobiliser les jeunes, la société civile dans un projet qui est aussi important. Je pense qu'au Québec, on a besoin de rêver grand puis d'avoir des projets de société comme ça qui nous motivent, qui nous galvanisent. Donc, c'est ça mon objectif, de faire impliquer la population à tous les niveaux.
À quelle place pour signer la pétition, Steven, en terminant?
Sur le site de l'Assemblée nationale du Québec, où vous pouvez taper simplement sur Google « Pétition santé mentale des jeunes Assemblée nationale », vous allez la trouver là, sans problème. Donc, on est à plus de 3150 signatures, je crois, là, en presque 3 semaines. On a jusqu'au 24 juin pour la signer. Puis après, on a l'intention aussi de la faire signer de façon papier. Ça, il n'y a pas de limite de temps. Donc, on va se promener là, avec une équipe de jeunes qu'on est en train de mettre en place dans les régions du Québec là, pour vraiment mobiliser les jeunes aux quatre coins et leurs familles ici du Québec.
Bravo pour l'initiative, Steven Bilodeau. Jeunes citoyens qui militent pour la santé mentale chez les jeunes et on s'y est au courant des développements.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Hey, ça fait plaisir. Journée. Salut, bravo pour ton combat. Steven Bilodeau. Antonine, PSPP, c'était pas le gars de la jeunesse, là? Le temps d'écran, puis tout tel quel. Il se passe quoi avec notre chef du Parti québécois? Variable News, mais après ça, il parle à personne.
Oui, on entend beaucoup ça, je dois dire, que les gens font des demandes de rencontres puis ils ne reçoivent pas de réponse, doivent faire beaucoup de suivi. Il faut dire, ils ne sont pas beaucoup. Okay? Ils sont
ça, c'est vrai.
Extrêmement sollicité. À un moment donné, là, tu sais, quand les, une affaire comme ça, santé mentale chez les
pour
jeunes.
Pour un enjeu là, comme ça, là, t'as pas le choix de répondre.
Il faut répondre. Là. Puis envoyer, tu sais, je comprends que le chef ne peut pas tout faire non plus. Mm-hmm. Moi, je pense qu'ils ils veulent évidemment rencontrer les chefs, mais que si, par exemple, leur porte-parole en matière de santé ou en matière d'éducation voulait les rencontrer, il me semble que c'est minimum. C'est là.
Puis Québec solidaire, le Parti des démunis.
Oui, là, c'est long, je trouve, avant qu'ils disent oui. Moi, si j'étais eux, je sauterais là-dessus, là, franchement.
Ben, parce qu'ils doivent être en train de parler avec un syndicat.
Ça doit, là, mais c'est ça. Le remaniement de priorité, des
mon
fois.
Sarcasme.
On est sarcastique, mais c'est des bons sujets pour le PQ et pour QS. Oui. Donc, sauter là-dessus. Puis j'entends honnêtement que M. Billard rencontre beaucoup de gens et qu'il est très facile d'accès.
C'était sa force la dernière fois. C'est encore sa force cette fois-ci. Ça semble authentique. Là.
C'est sa force, puis qu'il rencontre les gens lui-même. Il ne délègue pas beaucoup à d'autres. Il y a vraiment, vraiment un désir de rencontrer beaucoup, beaucoup de gens. Puis je dois vous dire, là, en politique, quand tu es proche du monde, accessible et plus tu parles à des gens, plus tu es connecté sur le terrain. C'est toujours un avantage. Donc, moi, je le recommande à tous les gens qui veulent faire de la politique, être proche, être terrain, écouter, écouter, écouter. En fait, on devrait plus écouter que parler.
Je suis clairement d'accord avec toi. Parlant de quelqu'un qui est peut-être pas assez sur le terrain, le maire Bruno Marchand, Mathias Turcotte l'a rencontré aujourd'hui avec d'autres journalistes. Il a donné un impromptu point de presse pour parler justement de l'élection de Christine Fréchette. Donc, Mathias s'en vient avec nous pour en parler. Et par la suite, je vais vous parler de ces détenus en prison qui sont rendus des TikTokers. Ils nous présentent ce qu'ils font derrière les barreaux avec des cellulaires qui ont été livrés par drone, puis ils n'ont aucune conséquence à l'intérieur des murs. Donc, on va parler de ceci. On a interviewé Mathieu Lavoie ce matin dans Marceau le matin, puis je vais vous faire entendre là, des extraits justement de nos nouveaux TikTokers prisonniers à l'intérieur de nos murs au Québec. Ça s'en vient dans On en jase sur Boulevard 102.1. Émission On en jase, ton émission du midi. Il est présentement midi 44. On adore vous informer. On adore vous informer sur les dernières nouvelles. Donc, on va aller écouter Donald
Question,
Trump.
Allez-vous vous excuser au pape? Réponse, non. Les choses que le pape a dites sont mauvaises. Il est contre moi dans la guerre en Iran et on ne peut pas tolérer la présence d'un Iran nucléaire. Alors, je ne peux pas l'excuser. Je pense qu'il est très faible envers la criminalité et autre chose. Je vais simplement répondre à ses remarques publiques.
Donc, Donald Trump qui ne s'excusera pas au pape tel le dieu de l'Amérique. Pascal, tu vas nous tenir au courant de ce que Donald Trump a dit durant l'émission, j'imagine?
Bien, j'ai de la misère à l'écouter en direct parce qu'on est en émission, effectivement. Ça se passe en ce moment.
Oui, ça devrait sortir dans les médias.
Pour ceux qui sont un peu mêlés là, avec le pape et tout ça, c'est juste parce que le président américain a critiqué assez vivement le pape. Il a affirmé qu'il n'était pas un grand fan de Léon XIV. C'est des déclarations après l'allocution du pape dans laquelle il appelait à la paix, dénonçait les conflits réarmer. Il n'a pas nommé Trump, mais il a condamné la guerre. Il a exhorté les dirigeants à privilégier le dialogue plutôt que le réarmement. C'est sûr que ça n'a pas fait plaisir à Trump. Fait que ça, c'est sa prise de parole. Par contre, ce qu'il vient de dire, ce que j'ai vu sur les chaînes là, de nouvelles, c'est le fait qu'il a réitéré qu'il allait littéralement attaquer tous les navires qui allaient être proches du blocus iranien. Pourquoi? Ben parce que il a annoncé des nouvelles choses dans les dernières heures. C'est sûr que ça a fait réagir, puis on est en riposte en ce moment, parce que Donald Trump a pris des nouvelles mesures contre l'Iran. Depuis 10 heures, il y a un blocus qui est en place. On paralyse le trafic entrant sur les ports et les zones côtières iraniennes, entrant, sortant. Blocus qui est décrit comme un acte de piraterie de l'Iran et qui découlerait de l'échec de négociations entre Téhéran et Washington. Les gardiens de la Révolution, eux, menacent aussi que tout bâtiment de guerre qui pourrait s'approcher du détroit d'Ormuz sera considéré comme une menace au cessez-le-feu qui devait être jusqu'au 22 avril et qui ferait face à une réplique sévère. Finalement, on est encore au même point avant même le cessez-le-feu qui avait été mentionné de part et d'autre. Là, on se retrouve un peu dans une situation fâchante.
On va en parler avec Luc Laliberté aux alentours de 13h10. Donald Trump a déclenché justement ce conflit en Iran. Le détroit d'Ormuz s'est fermé. Et là, face à l'échec des négociations, ben, il bloque encore plus le détroit d'Ormuz. Fait que j'ai de la misère à comprendre la stratégie.
Deuxième cas confirmé de rougeole. La semaine passée, on vous indiquait comme quoi on en avait un premier, que la santé publique de la capitale nationale était très concernée par tout ça. On demandait à des gens qui avaient passé par le CHUL de lever la main, d'appeler. Et là, cette fois-ci, ben, c'est encore un autre cas sur les territoires de la ville de Québec. Deuxième en une semaine, une personne infectée. Elle aurait circulé dans des commerces de grande surface. On parle de quartier Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Les Rivières, 6 et 8 avril dernier, dans trois secteurs de l'hôpital L'Enfant-Jésus aussi. Le 7, le 8, le 9 avril et à l'urgence du CHUL le 10 avril. Si vous pensez avoir été en contact juste par le fait de vous retrouver au même moment, à la même place que cette personne-là, consultez les autorités. Si vous avez des symptômes, il y a une enquête épidémiologique qui est toujours en cours là, pour déterminer un peu le lieu, l'acquisition de la maladie par cette personne. Christine Fréchette, c'est la nouvelle chef de la coalition Avenir Québec. Elle devient donc première ministre du Québec. C'est sûr que vous le savez, rendu lundi à 12h47. Par contre, ce qu'on peut vous donner de plus comme information, c'est que c'était un vote serré. Elle a eu 58 % des votes des membres de la CAQ, contre environ 42 % pour Bernard Drainville. Elle succède à François Legault. Elle sera assermentée mercredi et elle aura des rencontres à faire aussi pour son futur conseil des ministres qui devrait être formé la semaine prochaine. Pour Bernard Drainville, eh bien, il laisse la poussière retomber. Il a dit qu'il félicite Mme Fréchette, qu'elle sera une première ministre rigoureuse et déterminée et qu'il faut avancer. Il faut avancer pour le Québec et il devrait changer si ce n'est pas encore fait parce que c'était dans la journée, ces deux-là, pour voir un peu quel sera leur avenir de collaboration. Il y a quatre suspects armés qui ont été arrêtés par le service de police de la ville de Lévis. C'était cette nuit. C'est en lien avec une tentative ratée d'invasion de domicile. Je vous disais dernièrement qu'il y en a beaucoup plus. Encore une autre à 4 heures du matin. On s'est rendu dans un immeuble résidentiel. Individu cagoulé. On essayait de forcer l'entrée dans un logement et on a réussi à faire irruption dans l'appartement. Les policiers ont mis la main sur le collet de ces gens-là. Ils étaient tous armés, couteaux. Et il y a une enquête en ce moment à ce niveau-là. Il y a plus de détails qui va suivre. Au palais de justice, c'est un retrait chaotique, disons-le comme ça, de Raphaël Plamondon. Ça fait 2 semaines qu'il est en cours. Il se représentait seul et c'est un détenu qui est accusé de menaces et de harcèlement sur les agents correctionnels. Là, il règle son dossier parce qu'il dit « Bon, je vais être coupable. » Il était jusqu'à récemment représenté par un avocat ami de la cour parce que, justement, c'est ce qu'on lui avait demandé tellement c'était chaotique sa présence en cour. Et c'est de cette façon-là qu'il a conclu son témoignage et qu'on a passé à autre chose. Alors, il a plaidé coupable. On va revenir avec plus d'informations aussi dans son dossier.
Un auditeur qui nous demande, c'est en nombre de votes le résultat pour Christine Fréchette? Bien, c'est simple, c'est à peu près là, de l'ordre de 9000 votes. Il y a 15000 personnes qui ont voté au total. Au sport!
Un long détour pour Stankowski, mais il résiste à Holvat. Remet devant! Félicitations, Marc, de son talent grandissant. Il est maintenant un centre d'élite dans la Ligue nationale et dans l'histoire du Canadien. Nick Suzuki marque et il a 100 points maintenant.
Centième point pour Nick Suzuki hier dans une victoire de 4-1 du Canadien de Montréal sur les Islanders de New York. Ça élimine par le fait même les Islanders. Suzuki est le premier joueur depuis Mats Näslund en 84-85 à obtenir 100 points. Mats Näslund, un Suédois. Également au sport, vous rappelez que c'est l'Écossais. Rory McIlroy qui a remporté le tournoi des maîtres hier à moins 12, un coup devant Scottie Scheffler. C'est les deux meilleurs joueurs au monde qui ont terminé au rang 1 et 2. Scheffler a porté une carte de moins 4 hier, mais c'était trop peu, trop tard. Et dans la NBA, les Raptors de Toronto terminent au cinquième rang de l'Est, ce qui fait en sorte qu'ils vont avoir une série face aux Cavaliers de Cleveland. Première participation en série pour les Raptors depuis l'année 2021. Et cette série-là va commencer samedi prochain, 13h. C'est sur les ondes de Prime Vidéo. Mathias Turcotte s'installe avec nous en studio. Mathias, un petit mot sur le Canadien. Suzuki. Oui. Hey, Hudson, 66 passes. On va parler avec Alex Laramé un peu plus tard, mais envoyez-donc, parle-moi d'un peu.
Juste pour vous dire à quel point c'est exceptionnel ce que Nick Suzuki fait en ce moment, là, 101 points cette saison. Il y a 4 joueurs de la Ligue nationale en ce moment qui ont plus de points que Nick Suzuki. Mm-hmm. Connor McDavid, Nikita Kucherov, Nathan MacKinnon et McLean Celebrini. Nick Suzuki est le 5e meilleur pointeur de la Ligue et tout ça en étant un excellent centre défensif. Pour vrai, tous ceux qui, pendant des années, ont dit « Non, Nick Suzuki ne sera jamais un centre de premier trio. »
Ben là, il y en a un.
Ben, votre argument, ce serait juste... Si vous dites encore que Nick Suzuki n'est pas un centre de premier trio, ben vous considérez qu'il y en a juste 3 dans les.
C'est ça, exactement. Donc, félicitations à Nick Suzuki. Lane Hudson pourrait dépasser Larry Robinson pour le plus grand nombre de passes pour un défenseur dans une saison. Il l'a égalé hier avec sa 66e assistance. Et Cole Caulfield est toujours en course pour le trophée Maurice Richard. C'est-à-dire le meilleur buteur de la Ligue nationale. Il en a 51 et c'est Nathan MacKinnon qui mène à 52. Donc, on va surveiller ces courses-là et on va en parler avec l'ami Alex Laramé aux alentours de 13h30 tout à l'heure. Mathias, tu t'es déplacé pour aller voir le maire Marchand qui donnait un point de presse. J'imagine qu'on a parlé des travaux du tramway.
Oui, bien sûr. Mêlée de presse du maire Marchand aujourd'hui. Ouais. Puis, on a eu une information concernant les travaux du tramway. Ce mercredi, donc cette semaine, normalement mercredi, ça va peut-être aller à jeudi, mais selon les informations qu'on a pour l'instant, ça devrait être mercredi. On va faire l'annonce des travaux sur René Lévesque avec CDPQ Infra, donc point de presse qui serait prévu à l'agenda. Ça va être intéressant. Parce
ça va être vraiment intéressant.
Veux pas, c'est la grosse partie des travaux qui inquiète plusieurs citoyens depuis maintenant plusieurs mois. On avait eu des détails pour les travaux à l'ouest, très peu pour les travaux à l'est de l'Université Laval jusqu'à maintenant. Ça va être les premiers qui vont sortir. J'en profite pour vous rappeler que justement, cette semaine, il y a des travaux sur René Lévesque reliés au tramway. Mais c'est juste pour cette semaine, donc depuis ce matin. En gros, le transit entre l'avenue de Bourg-la-Mac et l'avenue de Salaberry sur René Lévesque s'est fermée. Donc, les détours se font, bien sûr, par Chemin Sainte-Foy ou encore sur Grande Allée. À voir si on va voir si ça va avoir des impacts importants sur le trafic au cours de la semaine. Mais pour ce qui est du gros des travaux sur René Lévesque, donc qui vont être un peu plus tard ce printemps ou cet été, normalement, on devrait connaître ça ce mercredi.
Alors, tu vas suivre ça avec très grande attention pour nous. Puis demain, c'est Conseil de ville aussi. Donc, tu vas...
Non, pas demain, c'est la semaine prochaine.
D'accord. Donc, c'est vrai, le maire était absent du Conseil de ville la dernière fois.
Puis c'était 3 semaines avant le prochain.
Le maire était à l'aéroport de Québec parce qu'il y a eu une grande annonce et plusieurs sièges disponibles de plus. Mais vous, les journalistes, évidemment, vous l'avez questionné sur l'élection de Christine Fréchette à la chefferie de la CAQ et également comme première ministre du Québec.
Ben, c'est ça qui retenait l'attention aujourd'hui. Puis la première question qui a été posée au maire, c'était une question de fun. Je vais le dire comme ça. Là, je vais vous la lire.
Il est content
là.
Ou non?
Oui, ben c'est ça. Oui, mais pas exactement. C'est Tayem Moala du Journal de Québec qui a posé la question. Êtes-vous content ou très content de la défaite de M. Drainville à la chefferie de la CAQ? Je vous laisse entendre la réponse du maire.
Je suis très content de la victoire de Mme Fréchette. Je pense qu'on oublie ça, là. Puis on est en 2026, puis on pense ça naturel. C'est seulement la deuxième femme première ministre du Québec. Je pense qu'il ne faut pas bouder notre plaisir. Je pense qu'on envoie un message, puis c'est la CAQ qui le fait par le choix de ses membres, mais on envoie un message très fort qu'à travers toute l'histoire, il n'y a eu que des hommes. C'est la deuxième femme après Mme Marois. Moi, je pense que ça envoie un très bon signe à nos femmes, à nos jeunes hommes, à nos jeunes femmes. Il y a de l'espoir pour tout le monde. Le plafond de verre, il faut le briser. Puis j'ai très confiance. Mme Fréchette a été, j'ai envie de dire... très, très ouverte à collaborer avec nous durant sa campagne.
Non, on en parlait hier justement durant l'émission spéciale avec Antonine Iaccarini, à quel point à chaque fois qu'il y a un modèle comme ça féminin qui arrive, ça peut amener justement des femmes à se lancer en politique parce qu'on le sait, c'est très prenant. Ça peut amener des jeunes femmes également à dire « Hey, sais-tu, moi je pourrais m'impliquer également en politique. » Alors c'est très, très, très positif. Par contre, c'est sûr qu'il est content parce qu'on ne se le cachera pas. Il y en a un qui dit « On n'a pas le financement du fédéral, on ne coupera pas d'arbres. » Il y en a un autre qui dit « All the way, tramway. »
Ben c'est ça, on met beaucoup de fait que c'est une femme, mais du côté de Bruno Marchand, selon moi, la chose qu'on célèbre le plus, c'est par rapport au projet de tramway. Là, on va pas s'en cacher, puis il ne s'en cache pas non plus. L'arrivée de Christine Fréchette en tant que première ministre, c'est une bonne nouvelle pour le projet de tramway.
Oui, non, c'est une très bonne nouvelle pour le tramway de Québec.
Parce que ça aurait été inquiétant avec M. Drainville?
Non, pas du tout. Je ne fais pas référence à M. Drainville. Je fais référence au fait que c'est tellement acquis et clair pour elle que ça n'a même pas été un sujet de campagne. Ça n'a même pas été un sujet sur lequel elle l'a abordé comme un sujet de campagne. On avance. Elle comprend l'importance. Elle voit l'importance pour le développement économique de notre région.
Donc, évidemment, bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, j'imagine, pour le maire, c'est par rapport au troisième lien, parce que Mme Fréchette a dit il n'y en aura pas de tracé central, puis on se souviendra, et avec raison, là, le maire se battait contre ce tracé central parce que ça allait scier Vanier en deux.
Oui, bien, vous allez l'entendre, là, c'est exactement ce qu'il dit par rapport au troisième lien qui devait déboucher sur Vanier.
Bien, sur la portion Vanier, pour nous, c'est des bonnes nouvelles. Après ça, le tracé central aurait pu bifurquer vers Robert Bourassa. Ça restait dans les cartons. On n'a pas vu le dernier travail qui a été fait par M. Julien parce qu'il avait décidé d'attendre la fin de la course. Mais sur le volet Sillery-Vanier et se rendre à la capitale, on ne voyait pas comment on pouvait faire des gains pour les gens de Québec. Maintenant, après ça, ils vont étudier la suite vers l'Est, à eux de voir.
Puis on va s'entendre que les chances que le projet se réalise tout court, ben ont baissé drastiquement.
Ben oui, là, parce que la CAQ ne sera pas réélue. Fait qu'à moins que le Parti conservateur du Québec se réélue à l'ensemble du Québec, ce qui est peu probable, sinon pas probable du tout. Là.
Les projections vont pas là,
ben,
du tout. Là.
C'est ça. Donc, ça va être un parti politique qui va prendre les reins. Une remarque que Charles Milliard ne s'est pas montré fermé au troisième lien.
Peut-être Charles Milliard, mais en même temps, Christine Fréchette va arrêter le projet central. C'était dans ses promesses. Puis, c'est pas dans les premières étapes de son plan de transport pour Québec que le troisième lien allait s'y retrouver. Là. On parlait dans plusieurs années.
Oui, il y avait
années.
Plusieurs étapes, c'est dans 10 ans.
Donc, Christine Fréchette ne va pas avoir le temps de relancer un projet. Est-ce que Charles Milliard va vouloir relancer, lui, un projet alors qu'au cours des dernières années, ça a été échec sur échec sur échec pour les projets de troisième lien. Ça va être à voir, mais c'est sûr que pour le maire Marchand, d'avoir Christine Fréchette, une femme qui est visiblement pour le tramway, là, il y en a parlé, c'est probablement une des seules ministres provinciales au cours des derniers mois, la seule candidate qui a pu éviter de parler du tramway. Là, elle a quasiment aucunement parlé du tramway durant la course électorale. On se retrouve avec elle aussi, qui n'est pas nécessairement pour un troisième lien central ou du moins un troisième lien dans l'idéal. Donc, Bruno Marchand, c'est sûr qu'il se retrouve dans une situation beaucoup plus favorable que si ça avait été Bernard Drainville au pouvoir.
Actuellement, le municipal provincial est aligné. On verra pour le fédéral parce que, bon, c'est pas tout à fait la même façon de voir les choses. Quoique l'enveloppe vient pas, là, fait qu'on verra pour la suite, mais ça va se redessiner à l'automne.
Oui, oui, 100%. Puis t'en parles, le financement du fédéral et tout. J'ai posé la question au maire Marchand. Christine Fréchette n'est là que quelques mois, veut pas. Quels sont les dossiers prioritaires qu'elle devrait traiter pour la Ville de Québec? Bien sûr, le financement du transport en commun en faisait partie. Je vous laisse entendre sa réponse.
La question du logement. On a une croissance à Québec qui est la meilleure au Canada l'an passé. Il faut continuer dans ce sens-là, puis on a besoin du gouvernement du Québec, notamment pour le logement social, le logement abordable. Les questions de mobilité sont encore à l'ordre du jour, mais il y a un paquet de questions sur les ententes fédérales Québec, notamment celles sur les transports. Il faut régler ça avant l'élection. Il faut que ces sommes-là viennent au Québec. Il faut qu'on développe nos villes, qu'on développe nos infrastructures. Puis je termine par celui-là. La question des infrastructures n'est pas banale. Il faut qu'on trouve des solutions pour travailler avec les maires et les mairesses, avec les villes.
Oui, c'est les bons enjeux là, du côté du maire Marchand. On cible bien le tout. Évidemment, moi, au niveau du transport en commun, ben, mon seul bémol, c'est que on l'a pas encore eu, ce ménage-là, au RTC, alors qu'on a terminé 9e sur 10. Donc, je trouve que le maire en demande énormément au palier supérieur, que ce soit le provincial ou le fédéral. Puis au niveau des infrastructures, ben même chose. Il va falloir retrouver une mairie dans nos villes qui va être des mairies de tuyaux, puis des mairies d'asphalte, puis des mairies d'égouts. parce qu'il est là le déficit en infrastructure.
J'ai hâte de voir aussi avec le printemps qu'on va avoir, là, comment ça peut voir cette semaine,
oui.
Ce qui va déborder, comment ça va être drainé.
En effet.
On rentre dans une période assez importante à ce niveau-là.
Par contre, il faut quand même le donner au maire. La proportion du PQI pour les infrastructures municipales a presque réduit de moitié depuis 2018, depuis que la CAQ est au pouvoir. En 2018, on parlait de 7% du PQI qui était pour justement les projets d'infrastructures municipales. Là, on parle d'autour de 4,5%. Quand on est dans un déficit d'infrastructures comme qu'on n'en a jamais vu, c'est sûr qu'on a besoin d'investir davantage. Puis je terminerai aussi en rappelant que Mme Fréchette veut ramener le PEC, le programme Expérience québécois, qui faisait partie des demandes de Bruno Marchand également. On en a parlé pendant des semaines et des semaines. Chaque point de presse qu'on faisait, on parlait du PEQ. Puis Mme Fréchette, ça faisait partie de ses promesses de campagne. Donc, encore une fois, c'est une autre victoire pour Demain Marchand du fait que Christine Fréchette est maintenant première ministre.
Tu as entièrement raison. Merci, Mathias, pour cet autre excellent dossier, excellente sortie sur le terrain. Tu restes avec nous parce que je veux vous parler de prisonniers TikTokers.
Le midi, on en jase. À Boulevard.
Ben oui, Twitchers. Excellent texte dans le journal Le Soleil, le quotidien Le Soleil. De Victoria Barry, Judith Desmeules, que vous entendez régulièrement dans Le Retour de Gravel avec Denis Véro et Audrey. On parle de ces prisonniers qui sont rendus des vedettes sur TikTok. Moi, quand je vois ça, je me dis en prison, t'es pas censé avoir de cellulaire, t'es pas censé avoir rien qui te permet de diffuser sur les médias sociaux. Je me dis qu'on est pas assez raide avec nos prisonniers. Je vous fais entendre un premier extrait, c'est Isaac Moffat Swasson, un détenu présentement à l'établissement de Sorel-Tracy. Il a fréquenté plusieurs prisons au cours des dernières années. Ça fait environ 4 ans qu'il est emprisonné. C'est très court, c'est en anglais. Je vous le résume par la suite, mais dans les faits, vous allez voir, il sert d'un prisonnier comme d'un chien.
Hey, you already know, I've been in jail for 4 years now, and I always wanted a dog, so I said, fuck it, today, I'm gonna get me a dog, you know what I'm saying, so, I got me a dog. Killer! Killer! Good dog. Sit. This is my dog. This is a human mutt's.com, you can buy them.
Alors voilà, il crie, cet homme, ce détenu, arrive dans sa cellule, comme un chien. À quatre pattes, il s'assoit, par la suite va aller chercher une bouteille qu'on lance avec sa bouche et va finir par manger dans le petit plat comme un chien. Donc, on se permet de traiter d'autres détenus de cette façon-là sur les vidéos TikTok que j'ai vues. C'est pas étranger au fait que M. Moffat Swasson emmène large au niveau des prisons au Québec à l'heure actuelle. Puis moi, quand je vois ça, Pascal et Mathias, je me dis, là, quand est-ce qu'on peut pogner ces gens-là puis les envoyer au trou, là, s'il vous plaît?
Oui, la semaine passée, là, je parlais avec un agent correctionnel. C'est une conversation que j'ai eue de façon confidentielle. Je peux pas amener de clip, je peux pas changer la voix, tu sais, qu'on fait.
Mm-hmm.
Puis... rappelez-vous, on avait dit par le gouvernement à un moment donné qu'il allait installer des filets pour empêcher drones qui amènent cellulaire, qui amènent drogue, qui amènent... Puis c'était un projet là, qu'on avait entre les branches.
En effet.
Puis le filet, il faut qu'il soit petit, hein, parce que maintenant, les drones, là, c'est vraiment, vraiment petit. Puis ce qui serait entre les façons de communiquer, là, l'information du pourquoi on n'a pas ça encore, ce serait contre les droits humains. Parce que ça cacherait la luminosité dans la cour... pour les détenus. Fait qu'il n'y aurait pas assez de soleil pour eux. Il n'y aurait pas assez de... Donc, les drones peuvent encore amener autant de marchandises, permettre à des gens de faire des TikTok comme ça, permettre à des gens de se droguer, permettre à des gens de s'armer. Et quand on parle de droits humains, là, j'ai un profond malaise avec le fait que quelqu'un va se faire traiter comme un chien en prison versus qu'il y ait moins de soleil dans le cours.
Bien, en effet, puis on va justement entendre Mathieu Lavoie, qui est président du syndicat des agents correctionnels au Québec. Il nous parle justement, vous allez voir, il va parler d'un jugement qui fait en sorte que le droit des détenus maintenant, il est pratiquement plus important que le droit de quelqu'un, un citoyen présentement, qui vit librement en société.
Puis ça, ça a changé là depuis un peu plus d'un an, là, quand il y a eu une décision dans une autre province d'un tribunal qui est venu dire « Ah non, non, hey, ça s'apparente à de la cour, ça s'apparente à du droit criminel, le manquement disciplinaire dans les établissements de détention au Canada, au Québec. » Ben dans ce cas-là, il faut avoir la preuve hors de tout doute. Je pense qu'il y a des gens qui ont été déconnectés dans cette décision-là de comprendre comment fonctionnait une prison.
Fait que ce qu'il nous expliquait, c'est qu'il faut avoir la preuve hors de tout doute. Donc, il y a un cellulaire, mais le cellulaire dans une cellule partagée. Ben, les deux gars disent, pas à moi, ce cellulaire-là. Le cellulaire est caché dans un endroit partagé. Pas à moi, cette affaire-là. Le poignard est caché là. Pas à moi, cette affaire-là. Puis là, ben, les avocats des prisonniers s'en viennent en prison. Puis là, font toutes les démarches pour ne pas que ça fonctionne. Et au niveau des prisons au Québec, on n'est pas équipé avec des équipes d'enquêteurs spécialisés. Donc, on peut envoyer personne au trou. Ça n'a pas de sens. Je rejoins Steve qui écrit « Pas mêlant, les détenus ont plus de droits que nos enfants écoles. » Oui.
Mais c'est ridicule. Là. Imaginez-vous le sentiment d'être intouchable à ce point-là. La personne est en prison. Il n'a pas droit d'utiliser un cellulaire. Puis l'encadrement le protège tellement actuellement que cette personne-là peut dire « Je publie des vidéos mm-hmm. sur les réseaux sociaux. » C'est quelqu'un
ben oui.
en prison. « Je publie des vidéos sur les réseaux sociaux. » Puis ils peuvent rien faire.
C'est une hiérarchie qui est inversée en ce moment. Puis après ça, on se demande pourquoi est-ce que ils se permettent de régner en prison mm-hmm. les détenus.
Autre vidéo sur les médias sociaux d'Isaac Moffat Swanson. Lui et ses amis sont en train de scier avec des poignards fabriqués un genre de pépite d'école là, avec le frame là, en métal. Là, autrement, ils sont en train de scier ça pour pouvoir l'utiliser comme arme par la suite. Puis ils se filment. On est heureux. Motherfucker. Puis on est tout heureux comme ça. Et ça vient justement avec le manque d'investissement que tu parlais, Pascal, tout à l'heure.
Le manque d'investissement, le trop grand droit aux droits humains, aux droits de la personne. Mm-hmm. Où est-ce que ça s'arrête à un moment donné? C'est un moins de soleil dans le cours. Mais que les cellulaires ne rentrent pas, la drogue ne rentre pas, les poignards ne rentrent pas, ben, il n'y aura pas d'hiérarchie inversée non plus. À l'intérieur même, l'agent carcéral que je te parlais en passant, qui n'est pas Carl Ruel, je ne veux pas mettre personne qui collabore dans l'open mic, là, c'en est un autre. Lui, il me racontait que maintenant, ils ont peur d'exercer leur métier, chose qui est connue. Il y en a plusieurs qui se sont prononcés là-dedans. Mais parce que, justement, les détenus, à l'intérieur même de la prison, sont un petit peu plus en sécurité qu'ils le sont même à l'extérieur. Fait qu'ils peuvent continuer de faire leurs affaires, mais en étant en sécurité puis en ayant un genre de pouvoir sur les agents carcéraux. Puis rappelez-vous le dossier que j'ai fait avec le père de Jackson Fortin, qui est décédé dans la collision sur le boulevard Dufresne, là. Éric Légaré, qui a le droit de sortie 48 heures par semaine maintenant. Une des raisons pour lesquelles on lui a donné ce droit-là, c'est parce qu'il se comportait bien en prison, parce qu'il ne prenait pas de drogue, entre autres. Il avait arrêté de consommer. Mais à quel moment ça s'est supposé... Mais à quel moment ça s'est supposé peser
vraiment
dans un jugement?
Normal.
Il n'est pas supposé point en prendre de la drogue. Ça devrait pas être...
Ouais, investissement de 36 millions en 2023 de la part du gouvernement du Québec pour sécuriser les prisons, justement, empêcher les livraisons par drone, empêcher justement que les détenus puissent briser les fenêtres pour aller chercher justement des poignards, des cellulaires. Jusqu'à présent, seulement 5 ans de la pérade a été faite.
Ah, c'est terrible. Mais puis, on n'investit pas assez pour sécuriser les prisons de 1. Mais mettons qu'on dit on n'a pas d'argent puis on ne veut pas investir plus. Par exemple, c'est ça la prémisse, mais au moins donner la possibilité aux agents d'agir. Mm-hmm. Là, on ne parle pas juste d'un problème d'investissement, on parle d'un problème de structure en général. On sait que tel individu, tel détenu a un problème, que tel détenu a en sa possession un cellulaire, une arme ou autre. Puis on peut pas agir.
C'est ça. Et dans les vidéos, on voit justement monsieur également, là, le prisonnier Isaac Moffat Swanson, fumer un joint de pote dans sa cellule en pleine prison. Il met également des vidéos lorsqu'il est transporté au tribunal. Alors, on peut identifier adéquatement les agents qui l'accompagnent. Donc, c'est très dangereux pour leur sécurité. Et également sur le réseau TikTok GetGuapTV, c'est plusieurs prisonniers qui font des vidéos et il y a énormément de menaces qui se retrouvent là. On l'écoute.
Pourquoi t'es en prison?
Parce que les policiers, c'est des sales. Pour ça, je suis en prison.
Oh! Alors voilà, les policiers, c'est des sales. C'est pour ça que je suis en prison. C'est vraiment décourageant ce qui se passe. Faut absolument que le prochain gouvernement mette l'épaule à la roue et sécurise nos prisons plus sacrées parce que ça n'a pas de sens. Ces comportements-là qui se retrouvent dans les murs des prisons, derrière les barreaux, ben quand on remet ces gens-là en société, c'est juste une montée, une gradation de la violence. Et c'est notre sécurité à nous qui en paye.
Il faut aller à l'épicentre du problème aussi. Il faut se demander pourquoi est-ce que c'est une roue qui donne du pouvoir à un autre élément à côté. Puis je vais faire un parallèle avec Raphaël Plamondon. C'est le détenu qui a plaidé coupable là, ce matin, après deux semaines de procès chaotique, que lui s'est représenté seul et tout ça. Il y a un moment où il disait... Être en prison, ça me fait virer complètement débile. Je vire fou complètement. Puis moi, je suis pas en accord avec ce que Raphaël Plamondon a fait. Mais cette partie-là de son libellé, cette partie-là là, de son raconté en cours, elle est quand même importante à prendre. Parce que s'il dit « ça me rend fou, j'ai peur, je deviens paranoïaque, faut tout le temps surveiller mes arrières et tout ça », ça parle aussi sur comment en prison... ça va. Puis si on est en train de, même à l'intérieur de la prison, rendre des gens fous, les rendre plus agressifs, qui vont chercher des armes, qui deviennent paranoïaques, qui commencent à s'entretuer, qui sont hyper violents, il y a une question à se poser là. Il y a cette parole-là quand même de Raphaël Plamondon à appliquer. Là.
Ouais, je me place en porte-à-faux avec toi là-dessus parce que Raphaël Plamondon, c'est un délinquant très violent là, qui a un casier judiciaire... long comme, comme studio ici.
Ça, c'est sûr. Mais comme j'ai dit, il y a quand même l'élément de se dire s'ils ont autant de pouvoir puis ils s'attaquent entre eux autres à ce point-là puis qu'ils sont capables de faire leur propre loi, ça peut mener à encore plus de désorganisation parce qu'ils sont pas contrôlés, mm-hmm. ils sont pas envoyés dans des cadres stricts.
Oui, bien, justement, t'en parles de cadres stricts. On a un message par Twitch. Les gardiens le laissent filmer, ils ne les fouillent pas. Là est le problème, justement. Oui. Les gardes de sécurité n'ont pas les moyens d'intervenir efficacement avec ces personnes-là pour raison de droits humains, justement.
Je termine avec un texto qu'on a reçu. Une personne peut se faire accuser en société pour une publication avec différents types d'armes, alors qu'en détention, une personne jouit d'une présomption d'innocence plus grande, car le doute raisonnable est plus grand pour démontrer la possession de cet article. En effet, c'est ce qu'on disait, et c'est très malheureux à l'heure actuelle. Les détenus ont plus de droits que nous en société. Faut vraiment virer la situation de côté. Ça ne fait pas de sens, ce qui arrive. Quelque chose d'autre qui fait pas de sens, c'est le conflit en Iran qui dure depuis le 28 février. Le détroit d'Ormuz est fermé autant par l'Iran que par les États-Unis aujourd'hui. Donc, attendez-vous à ce que le prix à la pompe continue d'augmenter drastiquement dans la région de Québec et partout au Québec. Et pour en parler, on va avoir Luc Laliberté avec nous immédiatement après cette courte pause à Boulevard 102.1 à l'émission On en jase. On poursuit cette émission, on en jase sur les ondes de Boulevard 102.1, ton rendez-vous d'actualité de midi à 14h à chaque jour. On va suivre le retour de Denis Gravel, Marceau du soir avec Marc Bellemare. Et à 19h, c'est le nouveau podcast, la nouvelle série de podcasts de Denis Gravel sur les grands événements de Québec. C'est un podcast percutant et riche qui aborde les plus grands événements marquants de la ville de Québec. Et pour ce soir, à 19h, c'est la diffusion de l'épisode « La tuerie d'Halloween » avec Denis Gravel et Steve Jolicoeur. On s'en souvient tous, résidents de Québec, le 31 octobre 2020, une nuit funeste où deux personnes ont été tuées, plusieurs personnes ont été blessées par un homme déguisé en samouraï armé d'un sabre qui a semé la terreur dans le secteur du château Frontenac. C'est d'actualité en plus parce que cet homme-là va avoir le droit à un deuxième procès et c'est le photographe Steve Jolicoeur qui nous amène aux premières loges du drame où il est passé d'une scène de crime à l'autre pour se retrouver en position de prendre les seules photos de l'arrestation du suspect. C'est à ne pas manquer, 19h ce soir. Le podcast des grands événements est présenté par Climatisation Paquette pour la vente de produits Mover, la marque la plus fiable selon Protégez-vous, installée par une équipe de techniciens d'expérience. C'est climatisationpaquette.com. Pascal, avant de parler à Luc Laliberté, il y a du nouveau dans l'affaire Jeffrey Epstein.
Ouais, je sais pas si tu savais qu'il y avait une poursuite de Trump contre le Wall Street Journal. Mais ça a été refusé. Donc, on a rejeté cette poursuite-là dans l'affaire Epstein, effectivement. Donc, ça vient tout juste de sortir il y a 2 minutes. C'est un article qui faisait état d'une lettre assez salace, là, de vœux d'anniversaire qui était écrite à Jeffrey Epstein et qui portait la signature de Donald Trump. Donc, il y a un juge de district fédéral du côté de la Floride qui a conclu que Donald Trump n'avait pas démontré de façon plausible que le journal avait agi dans l'intention de nuire versus faire une nouvelle. Et c'était ça un peu le litige entre les deux. Donc, on refuse cette poursuite de Donald Trump.
Et également, bien, en Iran, ça bouge énormément, blocus par les Américains aujourd'hui.
Oui, et dans les dernières minutes, bien, Donald Trump était en point de presse. On était en direct du côté de la Maison-Blanche. Une nouvelle mesure des États-Unis contre l'Iran qui est effective depuis 10 heures ce matin. C'est un blocus, en fait, qui a été mis en place pour paralyser le trafic qui entre dans les ports et les zones côtières iraniennes et qui sort. Blocus qui est décrit comme un acte de piraterie par l'Iran. Ça découle de l'échec des négociations entre Téhéran et Washington et ça fait monter la tension. Faut le dire, les gardiens de la Révolution ont dit, ben OK, donc, alors tout bâtiment de guerre qui pourrait s'approcher du détroit d'Ormuz dans ce cas-ci, ce sera considéré comme une menace au cessez-le-feu qui devait avoir lieu jusqu'au 22 avril. Et ce bâtiment de guerre, si on parle de navire, mais quoi que ce soit finalement, va faire face à une réplique sévère. Le feu est encore pogné au Moyen-Orient.
Ah, vraiment. Et pour en parler avec nous, on a Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine et également gestionnaire et surtout producteur des capsules La Liberté en clair. Luc, comment vas-tu?
Particulièrement bien, même si hier soir, ben écoute, je suis de mon temps, après avoir couché les enfants, souhaitant voir et revoir le 100e point de Nick Suzuki, on m'a plutôt proposé une photo de Donald Trump en Jésus. Donc, ça ne cesse jamais. Ah. C'est infernal. Donc, hier, les auditeurs, auditrices ont peut-être vu ça aussi. Donc, Donald Trump qui veillait sur les Américains, mais clairement identifié au personnage de Jésus, alors qu'il est en conflit ouvert avec qui? Il manque d'adversaire, semble-t-il. Le pape Léon. Donc,
ben oui.
Nous en sommes là aujourd'hui.
Pourquoi pas s'en prendre à la Sainte Trinité? Hey Luc, avant de parler justement de ce conflit-là en Iran, je veux avoir ta réaction à chaud sur la décision justement de la Cour de ne pas aller de l'avant avec la poursuite pour le Wall Street Journal. Honnêtement, c'est une bonne nouvelle pour la liberté d'expression et la liberté de presse.
C'est surtout une bonne nouvelle qui se répète. C'est-à-dire que, et c'est une chose que j'ai mentionnée à de nombreuses occasions depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est qu'il est entré dans des bras de fer avec plein d'institutions. Il le fait avec des universités, il le fait avec des médias, mais l'idée, c'est de toujours faire planer la menace. On a vu du côté des universités américaines qu'il y en a qui ont les moyens de se défendre, comme Harvard. Mm-hmm. Et quand Harvard s'est défendu, Harvard a gagné contre l'administration Trump. D'autres universités ont plié parce que ça coûtait moins cher, finalement, de s'entendre avec Trump que d'aller combattre devant les tribunaux. Et pour les médias, c'est un peu la même chose. Il y a des médias qui ont plié devant Trump. CBS, par exemple, en est un de ces médias. Disney, pendant un temps, a plié aussi avant de trouver une voie de contournement. Et Donald Trump s'en est pris à des journaux, dont le Wall Street Journal, qui en passant, parce qu'il y en a qui se disent « Ah, c'est encore les médias progressistes ou libéraux contre une administration conservatrice ou républicaine », il va falloir se lever de bonne heure pour me convaincre que le Wall Street Journal est un journal de gauche ou un journal woke, comme on l'utilise parfois dans le jargon. Mais ce que ça souligne, c'est que ce n'est que de l'intimidation. Ça fait plusieurs fois que Donald Trump, devant les tribunaux, on ne se rend même pas au procès. C'est rejeté parce que les accusations sont sans fondement ou sans valeur au plan de l'argumentaire. Donc, tout ça pour conclure par une réponse simple à ta question. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais retenez que quand on résiste à Donald Trump, chaque fois qu'il fait de l'intimidation, ça a l'air facile, mais c'est souvent très coûteux. Chaque fois qu'on se tient debout pour ses droits, on gagne. Donc, victoire pour le Wall Street Journal, mais oui aussi pour la liberté de presse et la liberté d'expression.
On se propulse en Iran. Bon, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz à la suite des attaques du 28 février. Depuis ce temps-là, on a un prix à la pompe qui augmente sans cesse. L'économie ne va pas bien. Ça va se répercuter sur le prix des aliments. Et là, tiens, comme par magie, Donald Trump a la bonne idée de continuer à fermer le détroit d'Ormuz puis d'empêcher l'Iran de faire du commerce via ses ports.
Alors, on en est à ce jeu avec qui bloquera qui. Donc, on a eu un échec des négociations durant la fin de semaine. Les pourparlers continuent. De chaque côté, ce qu'on dit, c'est ce n'est pas la fin. Mais on sent très bien que chacun y va avec ses leviers. On fait jouer ses gros arguments pour tenter d'arracher des concessions à la partie adverse. L'Iran sait qu'elle a son principal argument ou sa principale force, c'est le détroit d'Ormuz. Et l'Iran, le pays est partiellement détruit, il y a des infrastructures qui ont été défaites, le régime a été malmené, on l'a, pardon pour l'expression, décapité, mais il y a plusieurs meneurs qui ont littéralement été éliminés. Mais si on accule un pays au pied du mur, ou si on le met en situation de désespoir, ce pays-là va s'accrocher à ce qui lui reste, et son principal argumentaire ou levier, c'est le détroit d'Ormuz. Donald Trump fait quoi? Lui, ce qu'il souhaite dans ce cas-ci, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options gagnantes et encore moins à court terme. C'est-à-dire que les Américains vont perdre quelque chose. Il s'agit de voir ce qu'on va perdre, l'ampleur, mais si on gagne militairement, ça fait très mal ailleurs, entre autres, tu viens de le mentionner, Jean-François, dans les poches des Américains. Donc, la réponse américaine, et c'est comme ça qu'il faut le voir, on a dit, et Pascal le mentionnait en manchette, on va mettre des navires, ça en prend une dizaine ou une douzaine, séparés tout le long de la côte iranienne. Et j'écoutais l'ancien général Wesley Clark très bien expliquer la stratégie ce matin en disant, on est capable de faire ça. On aurait aimé que l'OTAN nous vienne en aide, il se fait le porte-parole de Donald Trump un peu, il dit, on aurait aimé ça avoir de l'aide, mais on a tout ce qu'il faut en termes de navires, en termes d'équipement, puis en termes de soldats ou de marines pour faire ce travail-là. Par contre, ce qu'il dit moins, ou ce sur quoi on insiste moins, c'est qu'il y a des risques potentiels aussi, des risques d'escalade, bien entendu, mais des risques pour les navires qu'on expose comme ça à des tirs iraniens. Mais on est capable, mais tu devines que ce n'est pas à court terme, d'empêcher le ravitaillement ou certaines communications par les voies maritimes pour l'Iran. Donc, c'est plus que le détroit d'Ormuz. On empêche les Iraniens, parce qu'ils pouvaient d'ailleurs acheminer du pétrole autrement, eux, que par le détroit d'Ormuz, mais là, on les empêche de faire ça. Le régime iranien, il l'a montré, et ce n'est pas un appui au gouvernement iranien, il faut être clair, mais il a montré qu'il est résilient. C'est, si on n'a plus rien à perdre, on va vous traîner, puis c'est à l'usure qu'on va vous avoir. Et là, je reviens, est-ce que Donald Trump est prêt à très court terme à sacrifier beaucoup? Est-ce que la pression dans la région pour les pays du Golfe, et il y a un grand nombre de choses pour nous dont le prix augmente en raison de la fermeture du détroit, mais c'est encore pire pour les pays de la région. Et ça commence à peser plus lourdement sur la Chine. Mm-hmm. On est dans un régime autoritaire, on peut se permettre d'attendre, mais la Chine, elle est déjà à l'œuvre. Elle n'est pas que spectatrice ou inactive. Il faudra voir, si ça dure encore longtemps, ce qu'elle va poser éventuellement comme geste. Mais donc, voyons ça à court terme. S'il y a quelque chose de positif, on se parle encore. Si je suis un Américain, je suis un stratège américain ou républicain à la Maison-Blanche, comment je sors de là? Avec quel coût et avec quel risque? Et c'est là où on se trouve un peu empêtré, alors que les Américains se rappellent qu'en Afghanistan, ça a été long, que ça a été chaotique à la sortie. En Irak, on en a eu long à dire. Puis bien sûr, il y a toujours le fantôme du Vietnam qui plane sur chaque aventure à l'étranger comme ça. Je récupère aventure parce que c'était l'expression de Donald Trump. On est allé pour une petite aventure en Irak.
L'aventure, ça s'éternise dans l'aventure.
Ben, il fallait être particulièrement aventureux, semble-t-il, pour y aller.
Mais c'est ça le problème, c'est qu'en ce moment, on se demande pour comment ils vont faire s'ils ne sont même pas capables de respecter un semi-cessez-le-feu qui était supposé être en place jusqu'au 22 avril pour des négociations. Quand aussitôt que ça ne fonctionne pas ou chacun de leur côté, ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils répliquent ou ils amènent une force militaire de plus. Le pain économique est très, très, très difficile pour tout le monde. À un moment donné, il y a d'autres acteurs qui risquent d'entrer en ligne de jeu.
Ben, Pascal, c'est que la question qu'on a tous, je pense, parfois on se la pose clairement, parfois elle vient après réflexion, mais c'est est-ce que nous sommes mieux, est-ce que les Américains au premier chef sont mieux depuis l'attaque en Iran? Et il y a un argument que l'administration Trump peut sortir, mettre sur la table et dire, ben, la puissance militaire iranienne, elle est beaucoup plus faible qu'avant qu'on entre. Et ça, c'est vrai. Mais quand on regarde l'ensemble des coûts, quand on regarde l'ensemble de la stratégie, est-ce que les Américains et le reste de la planète sont mieux? Est-ce que c'est plus stable? Ceux qui prenaient la défense du peuple iranien, et j'en suis, c'est un régime autoritaire épouvantablement brutal. Est-ce que le peuple iranien en Iran aujourd'hui est mieux au moment où on se parle? C'est très difficile de répondre oui aux dernières questions que je viens de lancer en rafale comme ça.
En effet, et en terminant, Luc Laliberté, pendant ce temps, les démocrates font le plein de partisans parce que je lisais pas plus tard que ce matin que c'est 13% qu'ils ont gagné dans des comtés où il y a eu de nouvelles élections, et ça depuis justement la bataille Trump et Kamala Harris.
Il y a deux choses très importantes à retenir pour les démocrates, une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est qu'à court terme, effectivement, tu viens de le mentionner, puis je valide, ce n'est pas que l'information de ce matin, les démocrates sont sur une belle lancée. Il y a de plus en plus de gens qui votent pour eux, et même dans des fiefs républicains ou même MAGA, parfois on a des résultats qui sont étonnants là où on n'attendait pas les démocrates.
C'est dans l'ancien comté de Marjorie Taylor Greene là, voilà, que le démocrate a gagné quoi, 25 ou 26% par rapport à la dernière élection?
Plus de 25% d'amélioration dans un... Parce qu'on dit souvent, hein, les États républicains, ils sont rouges. Celui-là, il est rouge vin, rouge foncé. C'est absolument pas normal qu'un candidat aille chercher 44 ou 45% du vote. Là, c'est à peu près ce qu'a eu l'adversaire démocrate du républicain. La mauvaise nouvelle pour les démocrates, c'est un, oui, c'est vrai, il semble que par dépit, les gens reviennent voir les démocrates. Ils gagnent par défaut. Mais ce qui est très inquiétant dans les sondages, c'est qu'il n'y a que 24% de la population américaine qui dit « les démocrates font un bon job ». Il n'y a que 28% des Américains qui disent « on a eu une opinion favorable du Parti démocrate » et ça baisse quand on leur demande « est-ce que vous les soutenez, est-ce qu'ils font un bon travail ?» C'est que 24%.
Ça veut dire que
les politiciens américains, en général, ne sont pas populaires, que les démocrates ne le sont pas et qu'ils ne soulèvent pas d'enthousiasme. Et ça, pour les élections, c'est important. L'enthousiasme, c'est ce qui fait sortir les gens. C'est ce qui a manqué à Kamala Harris dans la dernière élection. Donc, oui, les républicains et Donald Trump sont inquiets. Il y a fort à parier si la tendance se maintient, pour utiliser la vieille formule, qu'on perde des élections de mi-mandat. Mais pour 2028, les démocrates doivent continuer à réfléchir, puis réfléchir en accéléré, prendre les bouchées doubles, parce qu'on ne les aime pas.
Vas-y, Pascal. Ça
a changé beaucoup pour la présidentielle de Donald Trump. Ça a des impacts à travers le monde entier. Peut-être en terminant, puis en une minute, malheureusement, Luc, les élections en Hongrie, là, c'est partout. Tout le monde en parle. Ils l'analysent parce que ça change clairement aussi pour l'Europe, aussi pour les États-Unis, ce qui s'en vient.
Ben écoute, la première chose, très rapidement, moi, j'ai hâte de voir si Maillard, qui est le vainqueur hier, celui qui sort Orban, va-t-il aller de l'avant avec son désir d'éliminer les multiples réformes qu'avait fait Orban pour faire de la Hongrie un régime plus autoritaire? Donc, c'est ce qu'il a dit. Va-t-il le faire? Il a la majorité pour. Donc, en Europe, ça, c'est ce qu'on surveille. De l'autre côté, Donald Trump, J.D. Vance, les MAGA, les conservateurs américains qui invitaient Viktor Orban, là, ils viennent de recevoir un message. Même si vous avez essayé de jouer avec la mécanique de la machine pour vous maintenir au pouvoir, à un moment donné, il y a des lignes à ne pas franchir et on peut vous sortir. Et si on vient de sortir Orban, pas impossible qu'aux États-Unis, on fasse la même chose avec le groupe qui est au pouvoir présentement.
Luc Laliberté, merci beaucoup. Je termine en te lisant un commentaire de Nadine, une auditrice fidèle. Merci à Luc Laliberté pour ses explications toujours claires et détaillées. Je l'adore. Ben, nous autres aussi, on aime ça, j'ose avec tout le monde.
Ben, écoute, salutations à Nadine. Merci beaucoup pour le commentaire. Puis salutations à tous les auditeurs, auditrices. Bonne fin de journée.
Merci, Luc. On se reparle car le conflit en Iran va continuer.
Ouais.
Et Donald Trump continue
donc,
pour trois ans.
Donc demain et après-demain.
Salut Luc, merci.
Bye-bye.
On va entrer dans quelque chose de plus positif après la pause, parce qu'après quelques manchettes, c'est le collègue Alex Laramé qui va venir s'installer avec nous. 100e point pour Nick Suzuki, 66e passe pour Lane Hutson, Cole Caulfield qui pourchasse Nathan MacKinnon pour le meilleur marqueur de la Ligue nationale et une victoire du Canadien de Montréal hier 4-1 pour éliminer les Islanders de New York. Bref, les amateurs de hockey, Pascal, en ont pour leur argent. Et on en parle, là, on en jase immédiatement après cette courte pause.
Tout ce que vous devez savoir. Jusqu'à 14h, on en jase.
Je préviens, on jase.
Ah, on va jaser de quoi de positif dans quelques instants. C'est-à-dire de sport, parce que ça nous unit, ça nous fait passer à travers le prix de l'essence à 1,99. On va jaser du Canadien de Montréal. Une victoire, une défaite ce week-end. Mais un 100e point pour Nick Suzuki. En attendant la météo, pour ça qu'on jase de sport aussi, c'est pour oublier la pluie. 10 à 20 mm de pluie prévue aujourd'hui avec des rafales qui peuvent aller jusqu'à 60 km/h, 13 degrés sur Québec. 9 degrés généralement nuageux pour demain, 9 degrés pluie intermittente pour mercredi et à plus long terme, 12 degrés nuageux pour jeudi et 16 degrés avec des averses pour vendredi. Je vous le rappelle, vous êtes de retour au bureau, vous êtes comment je pourrais bien écouter Boulevard 102.1 et la gang dont on en jase, c'est-à-dire Pascal CV et Jeff Fortin. Fort simple, blvd.fm via notre web radio, blvd102.1 qui est disponible, c'est notre application sur App Store et Google Play Store. Ou si vous êtes en télétravail, là, vous êtes à Alexa, écoutez blvd102.1 et on apparaît dans vos oreilles. 418-971-1021 aussi, si vous voulez nous texter pour réagir à ce qu'on dit en ondes et s'il y a des problèmes dans la circulation. Pascal, j'ai une petite mise à jour. Tu sais, on a parlé avec Steven Bilodeau, initiateur justement d'un mouvement pour que les gouvernements prennent soin de la santé mentale chez les jeunes. Eh bien, il y a eu une réponse après notre entrevue de Paul Saint-Pierre Plamondon et du PQ.
Qu'est-ce qu'on disait? Quand tous les autres partis répondent présents à part Québec solidaire dans ce cas-ci... Pourquoi est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon répondait pas présent?
Et c'est là que je trouve que Antonine Iaccarini est sur la coche parce qu'il a dit exactement la réponse qu'Antonine nous avait dit. Malheureusement, dû aux multiples demandes de rencontres et l'équipe réduite que nous avons, une rencontre ne sera pas possible. Alors, on joue la game de « on est trop débordé ». Très dommage, la santé mentale chez les jeunes, c'est primordial.
D'après moi, il l'écoutait. Il écoutait Antonine tantôt là, dans le caucus. Puis il dit « ah ben... » Un petit conseil politique gratuit.
C'est ça.
Hein? Un petit conseil de communication gratuit.
On va y aller, on va dire ça, puis ça devrait bien passer. Mais connaissant Steven, on va continuer à être tannant, puis il va bien faire d'être tannant,
motivé.
Justement, avec le PQ.
On
yes!
On va continuer à être motivé.
OK, oui. Dans l'actualité, Pascal, qu'est-ce qu'on suit en manchette avant de parler avec Alex Laramec?
Deuxième cas de rougeole confirmé sur le territoire de la ville de Québec. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'a annoncé la santé publique de la capitale nationale. Et la personne infectée aurait circulé dans des commerces grande surface. On parle un peu de magasins, des quartiers Sainte-Foy, Sillery, Cap-Rouge, Les Rivières. Et ça, c'est entre le 6 et le 8 avril. Dans trois secteurs de l'hôpital, l'Enfant Jésus aussi, 7, 8 et 9 avril. Puis à l'urgence du CHUL, le 10 avril. Si une des dates et un des endroits correspond à vos propres déplacements et que vous avez actuellement des symptômes, rapportez-vous du côté des centres hospitaliers parce que c'est super important en ce moment qu'il n'y ait pas un genre d'épidémie hein, de la rougeole.
En effet.
C'est ce qui inquiète. Et en l'absence de vaccination adéquate contre la rougeole, il faut savoir que vous risquez des symptômes forts. C'est pire en vieillissant. Puis après la vaccination, les personnes sont invitées à surveiller l'apparition de symptômes malgré tout. On veut vraiment être très près de ce phénomène-là et pas que ça devienne quelque chose de très important dans la ville de Québec. Christine Fréchette, c'est la nouvelle première ministre ici au Québec avec un vote serré hier entre les membres de la coalition Avenir Québec. Elle succède donc à François Legault. Elle a fait un bain de foule ce matin à Trois-Rivières,
oui,
déjà sur le
dans
terrain.
Une boulangerie.
C'est de là qu'elle vient, en fait, Trois-Rivières. Elle sera assermentée mercredi. Beaucoup de rencontres avec plusieurs personnes, entre autres celui qui l'affrontait dans cette course à la chefferie, Bernard Drainville. Ce sera quoi le rôle de Bernard? Bernard a dit qu'il était prêt à travailler en collaboration avec elle, qu'il la félicitait, qu'elle serait une bonne première ministre. Comme je vous dis, elle sera assermentée mercredi, mais elle va former la semaine prochaine son conseil des ministres.
On écoute Christine Fréchette en direct de la boulangerie ce matin.
Elle voit le mesure de travailler avec M. Drainville?
Oui. Alors, j'ai échangé avec M. Drainville et puis on va se rencontrer aujourd'hui. On va travailler ensemble. Un peu à l'image de ce que je lui ai dit hier là, pendant le débat, à savoir qu'il a beaucoup à apporter à la coalition Avenir Québec, beaucoup à apporter au Québec et on va travailler ensemble.
On va travailler ensemble avec un large sourire. Bien hâte de voir quelle sera cette collaboration. Disons qu'on s'est lancé pas mal de flèches dans la course à la chefferie.
Quatre suspects armés qui ont été arrêtés par les policiers de Lévis la nuit dernière pour tentative ratée d'invasion de domicile. C'est à 4 heures que les services d'urgence se sont rendus sur la rue J.B. Michaud. Les individus étaient cagoulés, tentaient d'entrer dans un logement. Quand les policiers sont arrivés, ils avaient entré. Donc, trois suspects. Une quatrième personne qui a été arrêtée aussi à l'extérieur du bâtiment. Ils étaient armés d'une arme de poing. Ils ont été rencontrés par les enquêteurs aujourd'hui, pourraient comparaître dans la journée. Pour l'instant, là, c'est possible que ce soit relié au crime organisé. On n'est pas capable de tasser cette hypothèse. Plus de détails à venir. Et aux États-Unis, plusieurs petites nouvelles. Je vais commencer avec celle de Donald Trump. Sa poursuite elle est refusée. Il poursuivait le Wall Street Journal quant à une nouvelle qui était sortie sur une lettre d'anniversaire qui était signée par Donald Trump. Lui, il trouvait que c'était une attaque contre lui et non une nouvelle. C'est refusé, on ne va pas plus loin avec ça. Sinon, la nouvelle de la journée, ben, c'est sûr que c'est en relation avec le conflit au Moyen-Orient. Comme quoi, Trump a décidé ce matin d'avoir une récidive envers l'Iran. Nouvelle mesure des États-Unis contre l'Iran. Depuis 10 heures, c'est un blocus qui est en place pour paralyser le trafic entrant et sortant dans les ports, les zones côtières iraniennes. Un blocus qui est décrit comme un acte de piraterie par l'Iran. Et ça découlerait de l'échec de négociations entre Téhéran et Washington.
Un long détour pour Stankovski, mais il résiste à Horvat. Marque de son talent grandissant. Il est maintenant un centre d'élite dans la Ligue nationale et dans l'histoire du Canadien. Nick Suzuki marque et il a 100 points maintenant.
Un 100e point pour Nick Suzuki hier dans une victoire de 4-1 du Canadien de Montréal. Alex Laramé, 51 buts pour Cole Caulfield, 100 points pour Suzuki, 30 buts pour Slafkovský, 66 passes pour Lane Hutson, puis je te parle pas des 62 points d'Ivan Demidov. Coup de dent, le Canadien s'en va vers la Coupe Stanley.
Ben écoute, c'est une année vraiment de rêve pour le Canadien, il faut l'avouer. Là. Moi, en début de saison, j'imaginais pas ces statistiques-là. Vraiment, là, Nick Suzuki, 100 points. Moi, j'ai quand même trouvé ça drôle, par exemple, que Cole Caulfield, on a fait un gros théâtre avec ses 50 buts, mais réellement, dans l'histoire du Canadien, il y a moins de joueurs qui ont marqué 100 points. Ça fait plus longtemps qu'on a eu un marqueur de 100 points avec le Canadien.
C'est vrai.
Puis ça a été joué un peu presque en dessous du tapis, là, mais quand même, là, c'était un grand exploit pour Nick Suzuki. Là, pour la Coupe, par exemple, moi, je pense...
Il est tellement content que ça coupe.
Oui, c'est ça. On t'entend mal, Alex, Colin Devine.
Là, ça fait mal. Là. On l'a vu hier. Ah ouais.
Ouais, on t'entend mal.
Moins bon, c'est le réseau Leclerc, ça. Faut parler à nos employeurs.
Faut parler à nos employeurs du réseau Leclerc. Ben, Alex, check bien ce qu'on va faire. Veux-tu nous rappeler sur la hotline? T'as-tu le numéro?
Envoie-moi ça, puis je t'appelle.
Parfait. On va faire une courte pause et par la suite, on va parler avec Alex Laramé de sport parce que c'est la folie furieuse. Mais là, on peut pas avoir un animateur de sport qui fait...
Ah non, puis en plus, on le voyait, là, il a pas arrêté de sourire. C'était un peu comme Christine Fréchette depuis
exactement
hier.
Exactement, quand elle dit « Je vais travailler ensemble avec Bernard ». Courte pause, on finit l'émission sport. Jusqu'à... 13h50 minutes. Comme prévu, on va aller rejoindre notre ami Alex Laramé pour parler de sport. Mais avant, Pascal, un couple qui a fait encore une fois parler de lui cette fin de semaine, Justin Trudeau et Katy Perry à Coachella, au spectacle de Justin Bieber, la petite calotte à l'envers des Alouettes de Montréal pour l'ex-premier ministre. Mais là, Katy Perry qui...
fait parler d'elle pour d'autres raisons.
Des accusations par une actrice australienne que je comprends d'agression sexuelle.
Oui, c'est ça. C'est Ruby Rose qui accuse Katy Perry. On n'est pas dans un processus judiciaire là, en ce moment. Mm-hmm. Actrice mannequin australienne, Ruby Rose, et elle a porté plainte contre la chanteuse américaine Katy Perry pour agression sexuelle qui se serait produite au début des années 2000 lorsqu'elles avaient environ 20 ans. Là, elle a précisé sur Threads qu'elle allait aller plus loin. Je ne sais pas si le délai de prescription est encore bon et tout ça, mais ce serait passé dans un genre de soirée de filles, si je comprends bien. Katy Perry, entre autres, l'aurait... je dirais pas tous les gestes, là, mais aurait frotté ses parties intimes sur son visage.
Parfait.
Puis ça, ce serait l'agression, entre autres, sexuelle.
Donc, dossier qu'on va suivre, évidemment. On revient au sport avec Alex Laramé. Donc, Alex, on en était à dire que le Canadien, ça va bien. 100 points pour Nick Suzuki. Il y a une trollée de statistiques intéressantes, mais là, ça déborde à l'infirmerie et notamment chez les défenseurs.
Ben ouais, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que oui, il y a des belles performances, tu sais, le 50 buts de Caulfield, on est bien content, les 100 points de Suzuki, c'est merveilleux tout ça, mais là, on s'en va dans la vraie saison, là, on s'en va en séries éliminatoires, et là, plusieurs points d'interrogation, notamment Dobson qui s'est blessé, et ça fait mal, parce que des droitiers à Montréal, c'est pas ça qui court les rues, là. On fait jouer des gauchers à droite, c'est pas l'idéal, puis là, de perdre notre meilleur défenseur droitier. Moi, je vais t'avouer, là, ça me met quand même quelques freins là, pour les séries. Là. Visiblement, on va prendre le Lightning de Tampa Bay et ça pourrait faire mal là, dans une série contre une équipe qui est vraiment expérimentée là, comme le Lightning.
T'as entièrement raison. Le cas Brendan Gallagher, tu le règles comment? Tu le laisses à la galerie de presse? Je pense pas qu'il est meilleur que les Bolduc, Veleno, peut-être Dak?
Ben, moi, c'est exactement là que j'allais. Là. Je suis d'accord qu'en ce moment, Veleno apporte plus aux Canadiens que Brendan Gallagher le faisait lorsqu'il jouait. Mais Kirby Dach, là, je veux dire, c'est terminé, Kirby Dach. Là, je veux dire, 6 pieds 4, le gars n'est même pas capable de jouer physique. De toute façon, même s'il jouait physique, il se blesserait. Donc,
il tourne en rond, ça n'a pas de sens.
Ah oui. Ah non, totalement d'accord. Je pense que peut-être pour le premier match, on pourrait peut-être habiller Gallagher quand même sur une quatrième ligne. Là. C'est pas impossible, mais selon moi, oui, il faut s'avouer que les meilleurs jours de Gallagher sont passés, puis on risque pas de le voir souvent avec le Canadien là, en série.
Premier match de Ryan Backer dans la Ligue nationale. Il a très bien fait, il a récolté une passe. C'est très encourageant là, pour l'ancien choix de première ronde qui a été blessé à ces deux dernières saisons.
Ouais, il a joué une game honnête, là, faut le dire. Là. Il a joué quoi, environ 11 minutes là, autour de ça. Pour une première partie à l'étranger. En plus, lui, c'était un 3-3. Hein. Il avait joué les deux soirées précédentes avec Laval. Fait que on peut quand même un bon niveau d'énergie là, pour sa première game. Faut dire qu'il était probablement ses nerfs, là, comme on dit. Fait que c'est pas ça qui manquait. Mais quand même, pour une première game, je trouvais que c'était très honnête. Puis maintenant qu'on parle de recrues, c'est drôle, la Ligue nationale vient de sortir un premier échantillon là, des votes pour le trophée Calder. Et sans surprise, Matthew Schaefer est premier. Ivan Demidov, deuxième. Mais quand même intéressant, Jakub Dobesh, c'est le quatrième joueur qui a le plus de votes, selon le premier échantillon là, qui est diffusé par la Ligue nationale. Donc, faut dire qu'on a des bonnes recrues à Montréal, puis l'avenir est très prometteur.
Ah oui, très grosse deuxième moitié de saison pour Jakub Dobesh. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Hier, as-tu vu ça, la belle photo? Ovechkin, Crosby, Le Temps, Malkin au centre de la patinoire à Washington pour célébrer justement le dernier match un contre l'autre de ces grands athlètes parce qu'Alex Ovechkin va prendre sa retraite. Mais là, quand je regarde le classement, les Capitals sont juste à un point des Flyers. Puis si les Capitals font les séries, ça va être contre les Pingouins. On veut ça, Alex Laramin!
Ben, moi, honnêtement, les Flyers, là, ça m'excite pas pantoute pour les séries. Là. Définitivement, j'aimerais mieux voir une série Pingouin, Capitals, tu l'as dit, Crosby, Ovechkin. Ça, pour le spectacle, ça serait incroyable parce que ça représente quand même une génération de hockey. Là. Moi, j'ai grandi avec ces gars-là. Là. J'ai commencé à écouter le hockey. Ils venaient d'arriver dans la ligue. Là, de voir qu'il arrive vers la fin, ben, c'est une page qui se tourne. Puis de finir ça en série pour Ovechkin, je pense que ce serait vraiment un scénario digne d'Hollywood.
Hier, les Capitals ont emporté 3-0 sur les Pingouins. Une passe pour Alex Ovechkin dans le match. On termine, Alex, avec du basketball. Excellente saison des Raptors de Toronto après avoir raté les séries les trois dernières années. Se qualifie au cinquième rang de l'Est. Ils vont affronter les Cavaliers de Cleveland. Réellement, l'échange Brandon Ingram fait l'an passé à la date limite alors qu'il était blessé. A tout changé pour les Raptors.
Ouais, c'est une belle saison pour les Raptors de Toronto. Tu l'as dit, qui retournent en série. Ça va donner quelque chose à se mettre sous la dent pour les fans des Maple Leafs hein, qui n'auront pas de hockey à regarder. Donc, ils vont pouvoir regarder du basketball au moins. Mais je regardais les statistiques. Ça reste une équipe assez défensive, hein, les Raptors.
Oui.
Au niveau des points marqués par match, on est 21e. Dans les points alloués, on est 12e. Donc, il va falloir jouer du gros basket défensif si on veut espérer aller loin en série. Mais quand même, belle performance cette saison pour eux.
Face à Donovan Mitchell, un des meilleurs joueurs de la NBA pour les Cavaliers de Cleveland. Alex Laramin, on se reparle en cours de semaine. Le classement final là, va être connu aux alentours de mercredi-jeudi. Donc, on se parle pour les séries de la Ligue nationale.
Ah oui, toujours un plaisir d'être jazz.
Salut Alex, merci beaucoup. Alex Laramin, journaliste au 99.5 Montréal et chroniqueur sur nos zones, chroniqueur sportif. Il fait également les sports dans le retour de Denis, qui suit d'ailleurs à l'instant même avec Véro Bergeron et Audrey Pinchot. Pascal Cévé, nous on se parle demain.
Sans faute.
Excellent, salut guys. Merci d'être à l'écoute de Boulevard 101.